nettoyer. Nous subissons aujourd'hui une érosion des effectifs, comme vous pouvez le voir. Là, d'un seul coup, ça s'est effondré. Il y a des gens retenus sur Paris. Il y a des, voilà, c'est l'accumulation. Et il y a des blessés. Voilà, donc tout ça fait qu'on est en effectif très réduit. Néanmoins, le quorum est atteint. Donc nous allons pouvoir, avec l'effet d'appel, tenir cette séance. Avant d'ouvrir officiellement la séance du Conseil municipal, donc j'ai demandé à Madame Kiefer d'être présente. Madame, donc Monsieur Marc Depp, chef de la police municipale, sera en retraite le 31 décembre 2017. Bien sûr, quand on part en retraite, il y a des jours de congé, ce qui fait que dans les faits, on est absent à partir d'une date avancée. Donc, en fait, Marc Depp nous a quittés, c'était quand ? C'était
samedi dernier,
voilà. Et donc, je vais laisser, si vous voulez bien vous lever pour que tout le monde vous voit bien, madame. Madame Kiefer se présenter. Elle occupe maintenant le poste de chef de police municipale, à Verdun.
Voilà, c'est pas...
Allez-y.
Mais parce que chef de police municipale...
C'est un grade.
C'est un grade, je ne l'ai pas. Je suis donc arrivée lundi dernier. J'ai fait une petite semaine avec M. Depp. Auparavant, j'ai effectué pratiquement 14 ans à Creil. Donc, une population bien différente de celle de Verberie. Les missions sont forcément, de par ma fonction, plus ou moins les mêmes, mais les priorités sont sûrement différentes à Verberie qu'à Creil. Les moyens sont aussi différents. Maintenant, aujourd'hui, pour l'instant, je découvre le territoire de Verberie, sa population, et puis il va falloir que je m'adapte. Il y a une petite période d'adaptation. Je commence à repérer un peu des têtes parmi les conseillers, les élus, enfin voilà, et puis la population aussi. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques personnes déjà connues de service, donc voilà. Sans ça, j'espère que les relations se passeront bien entre nous. Je suis ouverte à toute discussion si vous avez des questions à me soumettre ou des suggestions, des problèmes qu'il y a dans la... On a pu vous parler sur la commune, Monsieur Arnoux m'en a déjà fait part. Notamment de quelques voitures qui sont pour l'instant en tampon. Enfin voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? J'ai ma petite vie de famille, voilà, et elle passe en priorité, même si j'ai une conscience professionnelle particulièrement élevée, je pense. Voilà, et j'espère que faire de nombreuses années parmi vous.
Bienvenue.
Voilà. Voilà, donc Madame Kiefer, en fait, a déjà participé. On a tenu une commission voirie et travaux mercredi, et donc Madame Kiefer était présente pendant la commission, puisque forcément, pendant la commission, surtout sur les aspects voirie, on touche à des problèmes de sécurité.
Oui.
Voilà, madame. J'ai vu qu'il était arrivé.
Je m'en doute, mais vous l'avez bien reçu, c'est le principal.
Voilà. Merci.
Et bien, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir.
Merci. Merci.
Au revoir.
À bientôt.
Très bien. Écoutez, j'ouvre maintenant la séance. Donc, on va procéder à l'appel. Donc Jean, absent. Arnaud Michel, présent. Arnaud Odile,
présente.
Barouin Dolores, absent. Pouvoir à Jean-Jacques Cournil, vous aviez un pouvoir. Ok. Diaz Michel,
présent.
Baumler Laurent,
présent.
Brouillard René,
présent.
Carpentier Annie, absente. Pouvoir à Francis Panier. Kérol Evelyne, absente. Pouvoir à Laurent Baumler. Claude Marie, absente. Pouvoir à Odile Arnoux. Coulet Dominique, absente. Pouvoir à Patrick Fleury. Cournil Jean-Jacques,
présent.
Dumont Laurence, absente. Fagot Edwige, absente. Fleury Patrick,
présent.
Fourdrin Stéphanie, absente. Galzinski Nicolas,
présent.
Grosbon Lisiane,
présent.
L'ami Christophe,
oui.
Le Mercier Jean-Claude, absent. Bon, il ne devrait pas tarder. Merlin Marie-France.
Présente.
Présente. Panier Francis.
Présent.
Présent. Rabé Philippe, absent. Raguido Cécile, absent. Pouvoir à Patrick Stéphane. Ferrugia Raoui.
Présent.
Présent. Sauvage Patrick, absent. Stéphane Patrick.
Présent.
Présent. Il y a donc 14 présents. La séance sera donc valide. Le quorum est atteint. Bien, secrétaire de séance, Laurent Baumler se propose comme secrétaire de séance. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Laurent Baumler, secrétaire de séance à... Laurent Baumler, secrétaire de séance à l'unanimité. Bien. Donc, les pouvoirs reçus, je les ai annoncés tout à l'heure, je les répète. Donc, Barouin Dolores, Annie Carpentier, Kérol Evelyne, Claude Marie, Coulet Dominique et Raguido Cécile. Soit 5 et 1, 6 pouvoirs. Donc, il y a normalement 20 votes. Lecture de l'ordre du jour. Donc, après l'élection du secrétaire de séance, nous aurons l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal, les décisions du maire et la décision numéro 7. Là, nous verrons ensuite la programmation 2018 en termes de travaux et de voirie pour le conseil départemental, les demandes de subventions. Une convention d'utilisation de locaux communaux par le relais d'assistante maternelle. Une convention relative à la gestion provisoire de la compétence nettoiement, débroussaillage et élagage des voiries. Ensuite, nous aurons le règlement de voirie. Le point 6, ce sera transfert de la compétence maîtrise de la demande en énergie et énergie renouvelable au SE 60. Et en 7, les questions diverses. Voilà, nous aurons aussi un petit débat sur le périmètre de la zone d'activité économique, puisque dans le cadre des transferts de compétences, c'est des choses que l'on doit voir et il n'y aura pas de vote, mais simplement je voulais avoir une discussion à ce sujet-là avec le conseil municipal. Voilà. Ok, donc, alors, on va passer à la décision. L'approbation du PV, pardon, en premier. Donc, le procès verbal du conseil municipal du 19 octobre 2017. Avez-vous des questions, des remarques ? Bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Approuvé à l'unanimité. Décision du maire numéro 7. Alors, j'ai donc décision numéro 7, Monsieur Michel Arnoux, maire de Verberie, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal du 25 avril 2014 relative aux délégations accordées aux maires, décide de signer ce jour le marché de fourniture relatif à l'achat d'un camion Renault Truck Maxity 13 ou 130 E6 avec l'entreprise Guy Humette, 510 rue du Président Roosevelt à Choisy-au-Bac pour un montant de 49 025 euros hors taxes, 58 830 euros toutes taxes comprises, peut se passer selon la procédure adaptée. C'est la fin de l'histoire malheureuse du camion grue qui a été, je le rappelle, volé, brûlé à la sortie de Verberie. Ce camion sera livré en février, c'est ça, monsieur Leblanc. Évidemment, l'assurance va nous rembourser une partie. Aujourd'hui, on est dans...
On a reçu une proposition, tout retirer aujourd'hui.
37 000 euros via l'assurance.
Ça perdait beaucoup de valeur, il est tout récent. Comment ça se fait?
Ah bah, c'est comme les véhicules, hein. Dès qu'ils ont fait un tour de roue, ils perdent d'un seul coup pas mal de valeur.
C'est scandaleux,
parce qu'il avait et encore, la première proposition était à 5 000 euros de moins, à peu près. Hein.
Mais c'était pas 37 000 la première proposition.
C'est vraiment
incroyable. J'avais vu 40 et quelques
mille. On devait 37 000, monsieur Bommer a réussi à avoir 5 000 euros supplémentaires.
Ouais.
Mais sur les 40, donc 42 000 qu'on pouvait avoir, on a une compensation de TVA.
Ah oui, c'est ça, ah, puisqu'on avait touché la TVA, donc il récupère mon parti.
C'est les frais de gardiennage.
Voilà.
Ah oui, d'accord. Ouais. Ça perd beaucoup d'argent quand même.
Voilà, donc au total, c'est une affaire qui nous coûte 12 000 euros. Puisqu'on récupérera la TVA sur cette affaire-là. Voilà, ceci dit, évidemment, nous avons pris au niveau des ateliers des mesures complémentaires dans le domaine de la sécurité que je ne souhaite pas détailler ici, mais effectivement, maintenant, on a pris des mesures complémentaires au niveau des ateliers. Y a-t-il des questions, des commentaires sur cette affaire? Bon. Très bien, je vous propose de passer à la programmation 2018 du Conseil départemental. Donc, sur cette programmation, nous avons réuni les commissions, travaux et voirie, qui sont prononcées. On a émis un avis favorable sur les demandes qui vont vous être présentées, avis favorable à l'unanimité. Donc, pour le conseil départemental, c'est important de présenter les dossiers dès maintenant. Deux dossiers pourraient être présentés. Un dossier de travaux de bâtiment à l'école primaire du centre. Celui-ci comporterait la mise aux normes pour l'accès des personnes à mobilité réduite, essentiellement des changements de portes extérieures aujourd'hui. Hein, il y a 8 portes à changer. Voilà, il y a cette action-là. Une action de réhabilitation des toilettes parce qu'elles sont très très mal en point et ça peut poser, et ça pose déjà d'ailleurs des problèmes de santé publique. Ça fait, ces toilettes sont très 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 anciennes. Et également, puisqu'on en est sur l'accès des personnes à mobilité réduite, comme on a la cour qui est très abîmée, et que d'autre part, on doit relever des seuils pour effectivement se mettre en accessibilité PMR, on en profiterait pour refaire la cour. Voilà, on fait un, si j'ose dire, un coup complet pour l'école du centre, comme on a fait un peu un coup complet pour l'école maternelle, qui d'ailleurs, dont les travaux sont bien avancés, vont se terminer en février, c'est ça, monsieur?
Au prochain vacances de février.
En février, pour les derniers changements de menuiserie qui nécessitent des précautions dues à l'amiante. Voilà, alors les coûts de ces travaux. Donc aujourd'hui, pour la partie toilette, on a un coût de 51 200 euros hors taxes. Pour la partie réfection de la cour, alors là vous allez me donner le chiffre.
88 392,78 € hors taxe.
88 392,78 € hors taxe. Bon, il s'agit d'un premier devis hein, qu'on envoie au niveau, au niveau de la demande de subvention. Et ensuite un troisième, donc le troisième point qui concerne toutes les menuiseries et qui serait, alors c'est un devis approximatif qui va nous être précisé, mais il serait de 42 450 euros hors taxes. Voilà, soit au total, donc 40 000, 42 000, 51 000, ça fait 93 000, 93 000 et... Ah, 182 000, c'est ça, madame. 0,42.
Une menuiserie en bois, lorsque nous avons changé les fenêtres, effectivement, la BF de l'époque nous avait demandé des menuiseries en bois au niveau des fenêtres. Donc là, au niveau des portes, c'est ce qu'on a prévu.
Bon, on a fait un bon, le chiffrage sera précisé, mais effectivement, on est parti sur du bois. Hein. Parce que.
Et justement, c'était par rapport à la BF, ouais, tout à fait. Puisque ici, on a été obligé de mettre des gens en bois.
Autant à l'école des remparts, on a pu utiliser du PVC. Autant là, je me vois mal utiliser du PVC. Je sais que la BF, de toute façon. D'ailleurs, nous Gagnons sommes désormais. J'ai vu des dossiers signés par les deux, mais la BF qui s'occupe principalement de nous, c'est M. Guénou. Donc voilà, que j'ai d'ailleurs rencontré. Oui.
Il est sympa comme
tout. Très sympa.
Non, quand on le rencontre, il est sympa.
Oui. Ils iront les élus.
Bonsoir. Monsieur Jean-Claude Lemercier, arrivé à, je ne sais pas quelle heure il est, 20h25, c'est ça à peu près, hein? Donc voilà, donc effectivement, tous ces travaux qu'on met en priorité, on a trois dossiers, hein, donc ça ce serait le dossier priorité 1. Voilà, quelles sont vos questions déjà sur ce dossier?
Je vais juste apporter quelques précisions, mais c'est vrai que les toilettes sont vraiment dans un état. Enfin voilà, c'est très difficile. On en parle à chaque conseil d'école. C'est une demande qui ressort même dans les PV ou avant notre arrivée. Il faut vraiment faire quelque chose parce que on en est vraiment à des enfants qui se retiennent d'aller aux toilettes. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Il y a eu quand même plusieurs échanges avec les parents, je ne peux pas utiliser le terme de débat, mais plusieurs échanges, parce qu'ils souhaitaient, les WC, peut-être à juste titre d'ailleurs, de rapprocher les WC et de coller les WC à l'école, puisque là aujourd'hui les enfants doivent sortir de l'école. En revanche, techniquement, c'est très très compliqué de les mettre ailleurs, puisque la seule place d'ailleurs, ce serait dans le jardin. Mais là, Arnaud va peut-être faire des compléments, mais c'est très compliqué au niveau technique, au niveau tout à l'égout. Et puis, il faut recréer un bâtiment qui n'existe pas aujourd'hui. Et la difficulté de recréer un bâtiment derrière ce petit jardin, c'est qu'il n'y a aucun accès. Donc, on ne peut pas faire venir de mini-pelles. Il faut que tout soit fait à la main. Donc, ça multiplie les coûts, évidemment, très fortement. Donc, j'ai rencontré plusieurs fois les parents en conseil d'école et officiel et pas de façon pas officielle. Et donc, il est convenu de faire les WC à l'endroit où sont les WC actuels. C'est un moindre mal, ce n'est pas une solution miracle, mais en tout cas, ça répondra quand même
en termes d'hygiène.
Voilà. Donc là, ce qui est proposé, c'est d'utiliser, alors tu me dis si je me trompe, Francis, mais d'utiliser les WC actuels plus les WC publics, les anciens WC publics qui sont. C'est ça, on agrandit un petit peu par rapport aux WC d'aujourd'hui, je crois.
Oui, ce sera
Il n'y aura plus de WC publics. Voilà, c'est ça, il n'y aura plus de WC public, puisque de toute façon, ils ne sont plus utilisés. Donc, on le récupère pour les enfants, mais ce sera un local propre, chauffé, avec des sanitaires, voilà, et séparé entre garçons et filles, voilà, avec deux entrées différentes, enfin, qui répondent aux normes, de toute façon, d'aujourd'hui. Voilà. Et je crois que le surcoût au niveau de la cour d'école, ça doit être un peu le même principe, Arnaud, c'est ça, hein, c'est parce qu'il y a une machine qui ne peut pas rentrer.
C'est-à-dire que la cour est trop petite pour accepter un finisher, donc on est obligé de faire la cour à la main, et automatiquement le coût s'en ressort.
Alors, bon, se rajouter à ces coûts, donc au 80 042. Je pense qu'on prend l'architecte pour la totalité, en fait, la cour aussi. Non ? Bon, alors on aura environ, viennent se rajouter aux 180 042, 5 500 euros. 188 592 au total, quand on rajoute l'architecte. Qu'il faut prendre, je rappelle, sur les ERP, les établissements recevant du public, on est tenu de prendre un architecte. Pas d'autres questions sur ce dossier ? Bon, passe au suivant. Le dossier numéro 2 pour les travaux de voirie, donc chaussée, bordure et trottoir. Nous ferions la rue des Moulins en partie haute, de la rue de Saint-Yne à la rue Jean Jaurès. Le coût est estimé à 176 917 euros et 13 centimes hors taxes, soit 212 300 euros et 56 centimes, toutes taxes comprises. Alors on peut refaire cette voirie, qui est inutile de le dire, qui est bien endommagée, qui mène à la nécropole et au cimetière. On irait jusqu'à la placette en fait, hein, qui se trouve face au cimetière, et on peut le refaire rapidement. Maintenant, il n'y a pas de travaux de réseau qui soit le réseau est en bon état, que ce soit le réseau d'eau potable qui est relativement récent, et l'assainissement également qui est en bon état. Donc ça permet de refaire ce haut de rue, d'où le dépôt de ce dossier pour ce haut de rue. Est-ce que sur cette partie voirie, il y a des questions, Non ? Bien. Troisième dossier, c'est un aménagement pour créer un arrêt de bus au niveau de Francem. En fait, qui servira également évidemment aux habitants de la gare. Cet arrêt de bus serait créé au niveau du haricot qui fait l'intersection de la route de Compiègne et de la route départementale 932A. Déjà, les bus s'y arrêtent, mais évidemment, les conditions de sécurité ne sont pas satisfaisantes. C'était du provisoire. Et là, il s'agit de passer sur quelque chose de, j'allais dire, de normal, en tout cas aux normes, avec les aspects sécurité qui feront que, d'une part, tout le monde, tous ceux qui vont le prendre, notamment de la gare, seront plus en sécurité, et aussi ceux qui travaillent chez Francem, parce que c'était aussi un des objectifs, de leur permettre de venir en bus le matin, de prendre le bus pour arriver, traverser et rejoindre l'entreprise. Sur cette affaire, j'en profite pour dire que on va voir les rétex sur Arc Express, ça se passe donc assez bien, il y a une bonne fréquentation. Bon, j'attends le compte-rendu complet, mais déjà on sait que c'est positif. Donc on peut être rassuré sur le maintien de cette ligne. Aujourd'hui, je crois que ça rend un vrai service à tout le monde. Et donc c'est une bonne chose, c'est la chose qu'on avait demandé à notre entrée, de mettre en place ce dispositif le plus rapidement possible. Je crois que ça a été mis en place, ça a été mis en place en juillet, et je crois vraiment que ça veut dire que les gens y ont travaillé, parce qu'on a quand même posé la question, bon, avant janvier, mais ils ne pouvaient pas travailler avant janvier, et c'était opérationnel avec tous les marchés, etc., en juillet, voilà, en juin même, au 15 juin, pardon. Ce qui a permis d'en profiter pendant l'été. Alors le coût de l'aménagement de ce bus, finalement, il y a quand même pas mal de travaux à faire quand on regarde. On en profitera pour refaire aussi un peu l'espace vert, la partie espace vert qui est à ce niveau-là, où il y a la barque là, qui repose en fait sur du macadam. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les arbres, etc., et forcément ils meurent parce que... Il n'y a rien en dessous. Il y a quelque chose, justement. Il y a de l'enrobé.
Il n'y a pas suffisamment de terre.
Pas suffisamment de terre. Donc, ça fait un coût total, quand même, de 5 277,50 € hors taxes pour cet aménagement. 66 333 € toutes taxes comprises. Voilà pour les trois dossiers qu'on se propose de présenter au Conseil départemental. Questions ? Non ? Bon. Alors, pour votre information, comme il a été indiqué, le taux communal de subvention pour la commune de Verberie est fixé à 31% pour l'année 2018. Une majoration de 10% peut être obtenue pour les travaux de mise en accessibilité PMR Avant de voter, j'en profite pour dire que nous avions déposé un certain nombre de dossiers au Conseil départemental pour l'année 2017, que le Conseil départemental les a tous honorés. Deux concernaient Verberie. Il y avait l'école maternelle, où on a dû avoir à peu près 80 000 euros de subventions et du Conseil départemental. Et il y avait ensuite les trottoirs de la rue Juliette-Adam, là pour lequel on a environ 60 000 euros de subventions. Et vient bien sûr se rajouter là-dessus, alors c'est pas la mairie de Verberie, mais c'est le CIVOB, mais enfin ça nous bénéficie, puisque c'était tout l'assainissement de la rue Juliette-Adam, de la rue de Paris. Je sais pas si... c'est la DETR hein, sur le réseau.
Le renforcement du réseau de potable rue Juliette-Adam, c'est une aide de l'État au titre de la DETR, au taux de 35%, parce que cette année, ils ont raboté un peu tous les taux. Et puis, le département, effectivement, on a 89 000 euros de subventions pour les branchements. Hein, c'est le remplacement du branchement, la réhabilitation des branchements, le remplacement, enfin la création de branchements neufs n'étant pas subventionné. Et je remercie d'ailleurs, je tiens à le souligner ici, l'engagement très fort de Michel Arnoux sur ce dossier, parce que ça a été très compliqué. Le conseil départemental, c'était très chaud cette année pour les subventions d'assainissement, parce que les demandes étaient très nombreuses. Et il avait été question à un moment que le financement serait reporté sur 2018. Et le fait que le dossier soit passé en 2017 est une très bonne chose, parce que nous allons de fait passer le relais à l'ARC en ayant eu les financements adéquats pour les travaux qui ont été engagés en 2017.
Ce qu'il faut ajouter encore, c'est que de toute façon, c'était du fait des transferts de compétences. La dernière année, on pouvait bénéficier de subventions du conseil départemental sur l'assainissement. Puisqu'après, dans l'agglomération, on ne peut plus bénéficier de ces subventions. Voilà. C'était aussi donc une contrainte dans laquelle on s'est inscrite, mais dans laquelle on a quand même récupéré 89 000 euros. Voilà. Donc ça valait le coup. Il a fallu se battre un peu, effectivement, parce que en fait, il y a quand même pas mal de communes qui étaient dans notre situation, qui rejoignaient soit l'agglomération de Beauvais, soit l'agglomération de Creil, etc., et qui devaient donc... c'était aussi pour eux la dernière année. Donc on était nombreux demandeurs, et on a eu le bonheur d'être retenus. Voilà. Ceci dit, je reviens sur le sujet qui nous préoccupe. Donc, les travaux de bâtiment à l'école primaire du Centre en priorité 1. Les travaux rue des Moulins, partie haute de la rue de Saint-Ine à la rue Jean Jaurès en priorité 2. Et la création de l'arrêt de bus en priorité 3. Voilà. Donc, je vous propose d'approuver les projets de travaux et leurs priorités telles qu'ils viennent d'être définis, de solliciter les subventions du Conseil départemental, de solliciter une dérogation afin de pouvoir réaliser les travaux à l'école du Centre avant l'accord de la subvention, et de financer le montant de la dépense sur un crédit suffisant inscrit aux articles 2313 et 2315 du budget de l'exercice 2018.
Une petite question, c'est prévu le prolongement de la rue des Moulins jusqu'à la gare, Lucas ?
Alors, ce sera une autre phase. Quand on regarde l'état de la voirie sur la rue des Moulins, mais comme ça, après cette partie-là, qui est extrêmement dégradée, la première partie, hein, on est d'accord, le haut. Hein. On a une partie bon, qui n'est pas impeccable, mais qui tient encore, et après on arrive sur une autre partie qui est extrêmement dégradée, qui est sur l'extrémité de la rue des Moulins, avec d'ailleurs une partie qui est sur un domaine privé. Bon, tout ça est à voir, mais bon, voilà. Donc, oui, bien sûr. Alors après, il y a aussi d'autres rues hein, auxquelles on peut penser dans Verberie. Hein.
Quand on parle de la rue des Moulins, est-ce qu'on va la faire entièrement ou
elle est très longue.
Plus tard.
Elle est très longue, la rue des
Moulins. Elle sera faite plus tard.
Tout ne peut pas être fait d'un coup. Mais
je ne suis pas sûr que ce soit en 2019. Mais déjà, c'est un premier pas.
Il y a la rue aussi de la Mabonnerie, c'est un drame.
La rue de la Cendrier.
C'est dégradé parce que le jour qu'il y en a un qui va se casser la gueule là-dessus.
Ben je crois qu'il y a un panneau, monsieur Leblanc, c'est dégradé. Chaussée déformée.
Oui, oui.
Et la rue de la Cendrière aussi, qui est extrêmement déformée, elle est complètement
bombée. La rue de la Cendrière, elle est foutue à tout point de vue, y compris en dessous.
Celle-ci, c'est très important.
Là c'est plus problématique, parce qu'il y a tous les réseaux à changer.
Alors, effectivement, la rue de la Cendrière, à un moment donné, on s'est posé la question entre la rue des Moulins et la rue de la Cendrière. Le problème de la rue de la Cendrière aujourd'hui, c'est que d'abord, avant de faire le dessus, il va falloir faire le dessous. Et on a 175 mètres de canalisation centrale d'assainissement à changer, donc en tranchée. Ça ne peut pas être fait en chemisage. On a également des problèmes au niveau du réseau d'eau potable. Il y aurait notamment un maillage à faire entre la rue Joseph Pinjot et la rue Claude Carrier, parce que ça nous placerait dans une situation beaucoup plus confortable du point de vue du fonctionnement des réseaux. Donc là, il y a effectivement un travail à faire avant sur ces aspects assainissement. Et maintenant, les aspects assainissement, 2018, maintenant on passe au niveau de l'agglomération de la région de Compiègne. Donc on va travailler pour faire prendre en compte nos besoins à ce niveau-là.
Ça, c'est la rue Saint-Pierre, ça fait l'objet d'une option. Dans le marché actuel qu'on a passé, ça fait l'objet d'une option une et deux. Normalement, c'est 2020 et 2021. Ça, par contre, ça fait l'objet d'un marché.
C'est goudronné, la rue de Moroni, il y a pas de...
Ça fait combien de temps que c'est comme ça?
Toujours été, mais pour moi, c'est bonne rue, c'est le chemin des Maronis.
Bon, on est d'accord.
Allez, autant pour moi.
Rue des
Troëlles,
quand même. Pour moi, c'est le chemin des Troëlles, c'est pas une chose.
Bon, ceci dit, on ne peut pas tout attaquer en même temps.
Oh
voilà. Donc, je crois qu'on on a déjà avancé pas mal. Et on continue, donc, on continuera en 2018 à avancer sur ce sujet-là. Du moins, on sollicite les subventions du Conseil départemental. On n'a pas voté ?
Non.
Bien, donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient, voter à l'unanimité. Ça, c'était le point 2. Le point 3, oui. La convention d'utilisation. Convention d'utilisation de locaux communaux situés à l'école maternelle des Remparts pour le service du relais d'assistante maternelle. Donc, on a commencé ce travail, de faire un transfert du relais d'assistante maternelle depuis le bâtiment qui se trouve aujourd'hui dans l'ancienne mairie, du moins à proximité, pour transférer tout ça au niveau de l'école maternelle, dans une classe qui aujourd'hui n'est plus utilisée. Et qui se situe à l'extrémité qui donne sur
les remparts.
Les remparts. Tu veux en dire un mot ?
Non,
Bon, on a fait quelques aménagements. Aujourd'hui, c'est prêt. Tout ça s'est fait en accord, évidemment, avec l'éducation nationale. Effectivement, l'ARP nous propose aujourd'hui une convention. Tout ce qu'il y a de plus classique pour ce local que l'on dont on mettrait à disposition gracieusement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans ce local avant qu'il soit pleinement occupé? On a d'une part les menuiseries de l'école maternelle, cette partie-là va être faite effectivement en février. Et d'autre part, il y a la mise en peinture de l'intérieur de la pièce. Et là, on demande à l'agglomération de la région de Compiègne, et de la Basse-Automne de bien vouloir prendre ça à sa charge. Et on arriverait sur une occupation en février, mars ou aux vacances d'avril. Voilà un peu le planning de tout ça. Bon, la convention, vous l'avez reçue. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de la relire. Les 3 ou 4 pages. Il n'y a rien que de très classique là-dedans. Voilà. Donc, maintenant. Ah oui. À Alors, il était marqué, alors je sais pas, quand dans le projet que vous avez reçu, effectivement, il y a eu quelques mots de modifiés. C'était marqué « L'ARC ne pourra utiliser ses locaux qu'après accord du service PMI du Conseil départemental de l'Oise ». En fait, ce n'est pas un accord, c'est une concertation. Donc, d'ailleurs, ils vont venir le visiter. C'est quand? C'est vendredi?
Le 30. Ou... Le 30.
C'est la semaine prochaine.
Le 30 novembre.
Voilà, « pourra utiliser ses locaux qu'après concertation avec le PMI du Conseil départemental ». Et un petit peu plus loin, il y a également un chiffre qui a été rectifié. Les locaux ne pourront accueillir un effectif supérieur à 40 personnes. Ça a été rectifié à 35 personnes. Voilà les modifications qui ont été inscrites par rapport aux documents que vous avez reçus en préparation du Conseil municipal. Questions, commentaires ? Bien, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Ensuite, une autre... convention a été... va être présentée en conseil d'agglomération. Elle n'a pas encore été présentée, elle va l'être. Par contre, celle dont on va parler maintenant, point 4... Gestion provisoire de la compétence nettoiement, débroussaillage et élagage des voiries. Celle-là, elle a été présentée et votée en conseil d'agglomération. Donc, c'est une convention qui est valable pour l'année 2017 et pas ultérieurement. Tout simplement, au moment de la fusion, l'agglomération récupère toutes les compétences qu'exerçait la communauté de communes de la Basse-Automne. Pour ce qui concerne la compétence balayage, débroussaillage et élagage des voiries, elle a annoncé dès le départ, et ça s'est fait d'ailleurs en discussion au moment de la fusion, qu'elle nous rendrait cette compétence. Il se trouve que, en fait, ils vont rendre la compétence au 1er janvier 2018, donc ils l'avaient durant 2017. Ils avaient la compétence, mais ils n'ont pas exercé le service. Donc nous, pour garder la ville en état de propreté, on a effectivement, alors ça concerne en fait pour nous essentiellement le bailliage, hein, on a souscrit un contrat auprès de la société Veolia, on en a déjà parlé hein, au moment où il a été voté, qui a pris effet à la mi-2017, et bien sûr qui se prolongera au-delà. Mais aujourd'hui, on leur a demandé de nous rembourser, finalement, la partie 2017 de ce contrat, ce qu'ils ont accepté, sans trop de problèmes, sachant que pour nous, ça représente un coût d'environ 15 000 euros, voilà, qui reviendra donc à la commune.
Voilà, sur les années suivantes, sur les compensations.
Alors... Effectivement, à partir de 2018, et d'ailleurs ce n'est pas 15 000 euros de compensation, c'est bien plus que 15 000 euros, vont revenir à la commune. Bon, néanmoins, il était difficile cette année de leur demander de rembourser le chiffre de la compensation, parce que d'une part, on n'a toujours pas tenu la fameuse commission locale qui doit se tenir, et d'autre part, ils nous ont dit, ben non, dites-nous ce que vous avez fait, montrez-nous les factures, et voilà, on vous rembourse effectivement de ce que vous avez fait. Dans un plafond qu'ils ont fixé d'ailleurs la convention, et ce plafond est d'ailleurs à hauteur la compensation qui avait été à l'époque discutée avant la fusion. Voilà, ça s'est fait comme ça, je pense que ça s'est fait en... Voilà, c'est nous qui avons demandé, et bon, il n'y a pas eu de... Bon, si on ne l'avait pas demandé, ils n'auraient rien fait, mais on l'a demandé, il n'y a pas eu, ils ont dit oui, c'est normal, et on en arrive... à cette affaire-là, c'est quand même pas mal de récupérer pour nous 15 000 euros en question. Alors, dans les discussions qu'on a eues, justement, dès le début, c'est un point qui a été soulevé dès qu'on les a rencontrés. On a dit, attendez, ça c'est totalement différent parce que nous, en 2017, on a finalement pris des mesures d'urgence pour faire face au manque qui était là. Voilà, on a dit, il ne faut pas que ce soit, comme vous le dites, ça serve de base après pour la compensation. Et là, aujourd'hui, bon, ça s'est joué avec le DGS de l'Arc. Il a dit non, non, absolument pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'en précaution, ils ont mis comme plafond la somme de la compensation. Comme ça, le reste n'apparaît pas directement. Et là, comme dit, pardon, je vous laisse la parole. Comme dit Madame Javelot, il n'y a que le balayage, hein, parce que le débroussaillage, bon, c'est un peu débrouillé comme ça, c'est le cas de le dire. Donc voilà. Oui, pardon, je vous ai coupé.
C'est souvent ce qui est
retenu. Alors, plusieurs méthodes, hein, parce que là, on était parti sur l'année 2016, hein, avec le cabinet Klopfer, mais je ne peux pas être affirmatif, puisqu'encore une fois, sur ce sujet-là, la commission locale ne s'est pas encore réunie.
Suivant les lignes, elle peut décider d'une autre méthode.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est peut-être un ajustement qu'on demandera, par exemple, pour la salle d'Agobert, on en a déjà un peu discuté, parce que finalement, l'année 2016 n'était pas représentative de l'activité moyenne, habituelle, qui était dans les années antérieures.
C'est pour ça que la moyenne sur 3 ans, effectivement, ça permet d'éviter
ces problèmes
de logique,
et puis d'évacuer ce qu'on appelle les phénomènes.
Plus souvent, alors, pour le balayage, alors, il ne faut évidemment pas qu'ils prennent l'année 2017. Enfin, je pense que là, quand même, ce serait très... Ouais, je n'osais pas prononcer le terme, c'est celui qui me venait. Mais il n'en est pas question. Mais typiquement, sur cette compétence-là, on prend un an, on prend 3 ans, ça sera la même chose. Hein. Voilà, c'est des affaires de personnel, de machines, ce sera la même chose.
Ça a été fait par nos services ou on a fait par l'usine ?
Comment ?
Le nettoyage, les lagages.
Alors, non, le nettoyage et les lagages, on l'a fait nous-mêmes, en interne. Par contre, le balayage, effectivement, c'est totalement externalisé aujourd'hui. Oui. On a la société Veolia qui l'assure. Ça fait plusieurs mois que ça s'assure, ça se passe bien. Ils sont présents, on fait les rues. Ils roulent effectivement au poste qui permet de mettre un souffleur en place. Enfin, ça se passe très bien. Et on avait parlé des prix et des coûts au moment où on avait signé le contrat. On est bien tiré. Voilà. Je vous propose, alors, pareil, hein, la convention, elle n'est pas... Enfin, c'est une convention très classique aussi. Hein, consiste à nous dire, fournissez-nous des factures et on vous rembourse. Okay. Voilà, dans la limite de 43 029 euros pour l'année civile. Ça vous donne comme ça une idée de la compensation. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient, approuvé à l'unanimité. Je vous propose de passer donc au point suivant, qui est le règlement de voirie. Alors, le règlement de voirie, qui est quand même un document assez volumineux, que vous avez reçu, qui fait 56 pages. C'est un document qui était déjà en cours d'élaboration depuis un certain temps, puisque je crois que les premiers mots avaient été jetés en 2008 ou 2009. Voilà. Là, on a été un peu bousculé ces derniers temps, mais on a décidé d'accélérer pour avoir effectivement un document de référence dans ce domaine-là. Ce type de document, ça va permettre d'une part de ne pas réinventer l'eau chaude. On a normalement les réponses à la plupart des questions dans ce document. Ensuite, ça permet au directeur des services techniques de travailler plus rapidement, plus facilement en donnant les références de ce document. Donc tout ça, ça participe finalement d'une démarche qualité, j'allais dire. Voilà. Simplification de travail et puis harmonisation des réponses, un peu de standardisation en quelque sorte. Alors évidemment, ce genre de document n'est pas fermé, il est évolutif, ça c'est clair. C'est le premier jet, donc il est possible qu'il y ait à un moment donné des imperfections, des choses qui doivent être améliorées, mais je crois que c'est important de jeter un premier document et de voir après pour l'améliorer progressivement, mais néanmoins il y a déjà eu un gros travail et la plupart des choses qui nous sont importantes sont dedans. L'autre point, c'est qu'évidemment, il est évolutif, puisque la législation évolue. Donc, il faudra que le document suive ces évolutions. Voilà, sur ce document, quelles sont les remarques que vous avez? Je ne pense pas qu'on passe les 56 pages en revue. La commission a regardé quelques articles, il y a eu des modifications qui ont été apportées d'ailleurs, sur la suggestion de la commission. Voilà. Je crois que l'essentiel, c'est d'avoir un premier document, et après, effectivement, il y aura des petites améliorations, il y a forcément des choses auxquelles on n'a pas pensé. C'est clair, mais justement, ça sera la base pour améliorer tout ça.
Moi, je me quand même sur le règlement de voirie. C'est bien d'avoir ça, mais moi, je pense qu'il faudra le faire respecter aussi. Bon, entre autres, il y a tout ce qui est nettoyage des trottoirs, tout ce qui est la neige, enfin tout ce qui concerne tout ça. Donc il faudra effectivement qu'on puisse le faire respecter. Les herbes, désherbage, enfin voilà.
Les pieds de mur.
Les pieds de mur, voilà. C'est bien d'avoir un règlement, mais si on ne fait pas respecter, si on ne fait rien, ça sert à rien.
Si les gens ne font pas.
Non, mais c'est. Ouais. Oui, mais enfin, je pense alors, que aussi, c'est au conseiller, face au conseil municipal, quand on voit des choses, et à chacun d'ailleurs, de faire les remarques aux gens qui sont intéressés. Voilà, hein, aussi.
C'est marqué dans toute la mesure de leurs possibilités.
Voilà, oui, bien sûr. Une personne qui a 95 ans, elle ne va pas non plus lui demander.
Une personne handicapée, elle ne va pas lui demander.
Mais quelqu'un qui a 30 ans ou 40 ans et qui ne fait pas son pied de mur, moi je ne comprends pas. Enfin, voilà.
Bon, après, on a effectivement on a aussi une police municipale qui aujourd'hui veille de plus en plus près à tout ça, notamment. Elle a été renforcée récemment, comme vous le savez. Je crois que ça se passe très bien. Puis vous avez vu là, l'équipe a totalement changé finalement en quelques mois, puisque Madame Kiefer vient d'arriver.
Et dedans, tout n'y est pas sur la voirie.
Pardon ?
Je dis, tout n'y est pas dans le règlement sur la voirie.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Il manque peut-être encore des choses. Tout en allant, on rajoutera ce qui manque. Mais tu penses à quoi ?
Je me suis amusé à le lire, vous ne parlez pas du stationnement des voitures sur les trottoirs.
Je ne sais pas si ça doit être dans le règlement de voirie. Je me tourne vers M. Leblanc.
Un règlement de voirie, oui. C'est un document que l'on fournit aux concessionnaires et aux toutes les entreprises qui interviennent sur le domaine public communal. Grâce à ce document, ils ont les bases. Et c'est uniquement des reprises de la législation pour savoir comment ils doivent intervenir sur notre domaine communal. D'accord. Ce que l'on autorise et ce que l'on n'autorise pas. C'est pas un document qui est amené à être fourni aux administrés et ainsi de suite. Les administrés, par exemple, pour les pieds de mur dont on parlait tout à l'heure, il y a un arrêté municipal. L'arrêté, oui, doit être à la disposition des administrés, pas spécialement le règlement de voirie. C'est un document qui est consultable, il n'y a aucun problème de ce côté-là, mais on ne va pas s'amuser à le distribuer dans les 1600 foyers de Fondorie. Maintenant, il est vrai que sur tout ça, moi, vous verrez dans les premières pages, là, ce que vous signalez, il me semble que ce ne soit pas dans un des... Ah, sinon, le code de la route.
Oui, c'est dans le code de la route.
C'est 135 euros à partir du moment où vous garez au
trottoir. Ça, vrai. Je pense que les gens le savent, hein. Il n'y a peut-être pas besoin d'un règlement de voirie pour que les gens sachent qu'il est interdit de se garer sur le trottoir.
Ça, on l'apprend quand on passe son permis, de toute façon.
Alors, on l'apprend quand on passe son permis, on a tendance à l'oublier rapidement.
Oui, mais on est censé faire qu'on l'apprend quand on passe son permis. On fait un code de la route.
On l'apprend quand on passe le permis, mais on le retient quand on prend le PV.
Oui,
c'est sûr. On se le remet en mémoire au moment où on
prend
le
PV. C'est un PV.
Ah. Mais c'est important. Hein. On a eu pour citer un exemple, alors rue Juliette Adam, là c'est marqué. Hein. Donc, il y a des places de stationnement qui sont matérialisées. Rue de Saint-Yves, on a eu un accident qui aurait pu être sévère. Hein. Et voilà, en plus sur une départementale. Donc, oui, on ne doit pas se garer sur le trottoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des places de stationnement chez soi. Ça fait partie des... Voilà.
Oui, mais on a le droit de se garer sur la route.
Oui, on a...
Il y a le droit de se garer en totalité.
Ah oui, la loi n'est pas sur la route, tu ne gardes pas sur le trottoir.
Oui, oui. Enfin, il faut quand même privilégier le fait qu'on rentre le véhicule chez soi.
C'est plus simple.
Oui, mais c'est lors des travaux.
Comment ?
Quand on fait des travaux, on ne peut pas toujours...
Non, mais c'est plus simple,
oui.
Dans la mesure du possible.
Bah là, l'accident était dû à des travaux.
Oui, enfin, ça, je ne veux pas rentrer dans les responsabilités de Pierre-Paul ou Jacques. Je dis simplement qu'on voit que ça peut être
c'est pas facile pour quelqu'un qui
extrêmement dangereux.
Surtout dans certains endroits, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le règlement de voirie ?
Oui.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans les responsabilités de...
C'est un grand débat.
Bon, je vous propose de revenir au règlement de voirie.
Il faut rouler moins vite.
Donc, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Point numéro 6, modèle de donc transfert de compétences au SE 60. Il s'agit d'un transfert de compétences de maîtrise de la demande en énergie et énergie renouvelable. Alors en fait, déjà ce qui est rassurant, c'est que ça ne nous coûte rien, ce transfert de compétences. En fait, sur ces sujets-là, le SE 60 se place en rôle de facilitateur, d'expert et de financeur, puisque il a, sur ses fonds propres, il accorde des aides pour la rénovation thermique des bâtiments publics. Donc ça peut aussi nous être extrêmement profitable. Et il réalise, alors à titre gracieux, hein, ils sont en train de finaliser leur contrat avec une société, des diagnostics sur les bâtiments publics. Et si on transfère la compétence maintenant, ben, courant 2018, eh bien, nous aurons effectivement ce diagnostic qui sera fait à Verberie. Donc ça peut être une bonne chose pour voir notre plan de bataille futur dans ce domaine-là. Je pense que sur certains bâtiments, on a aussi bien besoin de faire des progrès de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des questions sur cette compétence que l'on transfère ? Oui, il regarde des choses intéressantes, il faudra voir à l'avenir. Hein. Il parle de télégestion et de tout ce qui est chauffage, etc. Bon, ça peut être des choses intéressantes, il faudra voir les coûts de tout ça. Voilà. Ça ne peut être, à mon sens, que positif pour nous. On n'a rien à perdre dans l'affaire. Bon. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Pour parler du syndicat d'électricité 60, vous savez qu'on a une borne de recharge pour deux véhicules qui est installée place du marché. Elle devrait être opérationnelle en fin de la semaine prochaine.
Voilà. Et il faut une carte pour
comment ça marche ?
Alors il faut effectivement une carte qui s'achète, je crois, 5 euros. Et c'est tout. Hein, il faut la carte. Alors, il suffit d'aller sur le site internet du SE60. Vous avez tout un onglet qui est consacré à ces bornes de recharge. Et là-dedans, on vous explique tout. Alors, je ne l'ai pas en tête, là. Je ne sais pas où on achète les cartes. Je suis désolé. Toujours est-il que dans les bornes qu'ils ont mis en service, ils faisaient l'autre jour un compte-rendu d'activité, ils ont quand même pas mal d'activités sur les bornes mises en service. Bon. C'est un début, ça va sans doute évoluer. On verra bien sur Verberie. De toute façon, quand on... Enfin, Là, ils ont des remontées d'informations immédiatement sur la borne. Hein. On détecte qu'un véhicule est sur la borne, on voit combien il a pris, on voit combien de temps il est resté. Enfin, après, ils ont tous les éléments en interne pour faire des retours d'activité sur tout ça.
Et la consommation, Michel, je pose une question idiote, mais la consommation d'électricité, elle est prise en charge par qui ?
Alors, dans un premier temps, la consommation d'électricité est prise en charge par le SE60. Ultérieurement, il y aura sans doute un coût à payer, d'accord, par l'intermédiaire sans doute des cartes qui évolueront. Voilà, oui. Pour la commune, je rappelle que ça nous a coûté, hormis l'emplacement, oui, hein, mais tout l'aménagement a été réalisé par le syndicat d'électricité 60.
D'accord. Voilà.
Et ça a été payé donc par le syndicat d'électricité, par l'ADEME et par l'agglomération de la région de Compiègne. Nous, on a mis 0 euro dans l'affaire.
On a mis le terrain.
Oui. Hormis le terrain.
Disposition du terrain.
Question sur cette affaire-là ou pas ? Alors.
Genre voyage, oui. Et il doit y avoir une référence sur une carte ou quelque chose comme ça. Par le SE60, à mon avis, tu dois voir.
Sur ton véhicule électrique, tu dois voir les panneaux de recharge.
Ah oui, oui, ah d'accord, j'avais pas compris que c'était ça. Oui, c'est vrai, oui. Oui, parce que quand quelqu'un qui arrive,
les usagers sont
venus à la
planète
d'un autre.
Est-ce qu'on peut passer le diesel ou le
diesel ? Oui, mais
c'est pour
encourager. Pour l'instant,
il y aura.
Oui, bah c'est, de toute façon, c'est l'avenir. Non, il y aura plus, ça c'est sûr.
Commence à y en avoir.
C'est ça, oui. Je comprends. Ça, c'est d'encourager les gens.
Ça vient. Ah, c'est pas. Mais c'est en plus. Les gens qui font que de la ville, tu sais. Mais quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de kilomètres, tu sais, une personne.
Ça monte à 400 km d'autonomie. La dernière génération, 400 dans le meilleur des cas, donc tu comptes 300.
Au début,
c'était 100.
Et les batteries vont être de plus en plus.
Et là, la Zoé, elle a déjà plus que doublé
son autonomie.
J'ai vu que Renault, il faisait encore mieux électrique.
Ah oui.
Avec le
Peter, tout ce qui est véhicule de la poste maintenant, c'est en.
Ça va là ?
Ouais, on voit bien la chaîne.
Bon. Je suis en train de chercher le reste là. La feuille que j'avais tout à l'heure. Voilà. Donc là, en fait, c'est un sujet dont je voulais parler. Il n'y a pas de vote après. Pour l'instant, il y aura un vote à un moment donné sur ce sujet-là. Je vous rappelle simplement que, avec la loi NOTRe, en fait, elle a institué une compétence obligatoire pour les communautés d'agglomération ou communautés de communes sur la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. Donc, dans ce contexte, les intercommunalités sont appelées à définir, sur la base de critères objectifs, les zones d'activité communales devant faire l'objet d'un transfert à leur profit, en sus des zones qui relevaient déjà de leurs compétences, donc qui étaient d'intérêt communautaire. Au titre de cette compétence, donc, une démarche a été engagée par l'ARC en vue du transfert à son profit des zones communales pouvant être qualifiées de ZAE, zones d'activité économique.
L'identification des zones susceptibles de faire l'objet d'un transfert a été réalisée à l'appui des critères d'appréciation suivants. La vocation économique de la zone est mentionnée dans un document d'urbanisme. La zone présente une certaine superficie et une cohérence d'ensemble. La zone regroupe plusieurs établissements entreprises. La zone est le fruit d'une opération d'aménagement public. La zone traduit une volonté publique, passée, actuelle ou future, d'un développement économique coordonné. Donc la zone d'activité de Verberie rentre évidemment dans ces catégories. Reste à savoir, à délimiter effectivement sur le terrain ce qu'elle représente. L'agglomération a envoyé un projet où elle nous a demandé un retour que j'ai fait, mais les choses sont en discussion, c'est pas arrêté. C'est pour ça que, enfin, elles sont déjà quand même bien orientées. Mais on va voir ça. Ils nous disent que, évidemment, il est important de souligner que ce transfert est normalement, sur le plan financier, un jeu à somme nulle entre les communes et l'agglomération, par le biais des attributions de compensation, hein, comme pour le balayage qu'on évoquait tout à l'heure. En revanche, vos anciennes zones communales pourront bénéficier pour leur développement de l'expertise acquise par l'agglomération en termes de parc d'activité. C'est vrai qu'on ne peut pas contester qu'ils aient d'une part une certaine expérience dans le domaine, quand même des zones d'activité sur Compiègne, je pense qu'elles sont en bon état, elles sont bien tenues, elles sont, voilà, et puis ils ont le personnel qui va bien pour faire tout ça et pour mettre en place tout ça. Et c'est vrai que nous, il y a sans doute, on n'avait pas les moyens avant, maintenant on aura plus les moyens techniques, enfin, l'agglomération aura les moyens techniques et il y a sans doute des choses qui vont être, il y a des choses qui vont être mises aux normes dans tous ces aspects-là. Alors, ils avaient fait cette proposition-là, vous voyez la limite en rouge.
Oui, bon. Alors, il manque quand même quelques zones.
Alors, attendez. Bon, ça, c'est la proposition de l'agglomération. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'ai quand même répondu, parce qu'on avait des problèmes de délai, mais bon, rien n'est arrêté aujourd'hui. Nous, on leur a fait une contre-proposition que vous voyez là. Sachant que, par contre, ce qui paraît très difficile, parce que ça ne répond pas effectivement à la définition qui était donnée tout à l'heure, Francem est hors circuit parce qu'elle est isolée, en fait. Hein. Par contre, effectivement, on a fait cette contre-proposition-là, en montrant notamment qu'il y a la zone regroupant la déchetterie et aujourd'hui 4 entreprises qui se trouvent là-bas. Évidemment, on exclut la zone, là j'ai repris hein, ce qui était dans le PLU d'aujourd'hui, on exclut la zone qui se trouve au sud de la voie ferrée, parce que c'est une zone qui est amenée à être qualifiée en habitat. Donc voilà quelle était la contre-proposition que j'ai envoyée. Alors, à ce niveau-là, il faut vous lire la phrase suivante. Néanmoins, le cadre légal présente une dérogation spécifique à la compétence de zone d'activité économique en autorisant le transfert en pleine propriété des zones d'activité. Cet régime est à privilégier dans le cas d'une zone en cours de création, d'extension ou de commercialisation dès lors qu'elle est reconnue comme étant intercommunale, puisque dans ce cas, la commune n'est plus compétente pour conclure les actes de vente. Donc en termes, ça veut dire que si on transfère ça, il faut qu'ils nous rachètent. Il faut qu'ils nous rachètent les parties qui nous appartiennent, les terrains qui nous appartiennent là-dessus. On a à peu près 9 hectares, enfin, quelques arpents près, on a à peu près 9 hectares. Bon. Après, il s'agissait de dire aussi, oui, mais on nous rachète, mais à quel prix? Donc ça se discute. Typiquement, la première réponse qu'on m'a faite, si on le rachète, on fera faire une évaluation des domaines et on partira avec une évaluation des domaines. Ceci dit, pour en avoir discuté avec eux, on a quand même eu multiples échanges là-dessus. Manifestement, ce découpage-là ne les intéresse pas pour l'instant. On a discuté et eux, ils veulent rester sur ce découpage-là. Ce sent qu'au final, ce sera un vote à la majorité qualifiée. Donc, on est dans la discussion. Ce qu'on me fait remarquer, c'est que déjà dans cette zone-là, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de travail, qui se lancent un peu à l'aventure pour remettre tout ça en état. Ça ne signifie pas que la zone est délaissée, hein, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Enfin, néanmoins, il est incontestable qu'il y a des travaux à faire.
Enfin, les trois quarts de la zone sont quand même pris par Procure. Hein.
Ne serait-ce qu'au niveau de la voirie.
Oui, voilà, au niveau des réseaux, oui.
Superficie, c'est pas une superficie, il y a plus de la moitié, deux tiers qui sont coquins.
Bah, ils ont une zone qui est ici, qui est quand même. Voilà.
Oui, c'est une zone.
Qui est perfectible.
Oui,
ça comme ça.
Voilà. Non, en fait, c'est surtout la zone où il y a
le quart.
Oui, ça c'est effectivement, ça fait un peu des
problèmes. Et puis la zone ici en entrée, l'entreprise qui fait du bois.
Ils ne reprennent pas, la pointe.
C'est une belle entreprise. Hein,
ah non, mais attends, j'ai pas dit que.
C'est drôle que Hérode, il est en train de succomber dans la.
Il y a Hérode, il y en a d'autres aussi. Hein. Il y a Alfuma.
Alfuma, elle est en train de
transporter. Non, mais il y en a d'autres. Plus petit, il y a des copus qui est là-bas. Des copus qui marchent très bien. Bon, donc, voilà où on en est aujourd'hui. Mais je voulais quand même vous présenter tout ça. Moi, la contre-proposition que j'ai faite, c'était celle-ci. J'ai faite après en avoir discuté avec. Avec un certain nombre de personnes, hein, c'était de regrouper tout ce qui était en zone à UI. Hein.
Pourquoi clairement, vous avez entouré quartier de la gare avec cette
alors,
c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, Jean-Claude. Ici, dans le PLU actuel, c'est en zone UI. UI, c'est pour vocation industrielle. Aujourd'hui, cette zone, elle est amenée à être qualifiée en habitat. On va y mettre des entreprises. Au sud de la voie ferrée. Donc celle-là, il ne faut pas qu'ils la mettent dans la ZE.
De toute façon, il y a quand même plus de 30% de la rue des Moulins et compagnie, il y a quand même des bâtiments, il y a quand même des entreprises. Donc.
La rue des Moulins ?
Bien sûr, il y a combien d'entreprises ? Il y en a quelques-unes. C'est des petites entreprises, des entreprises qui font bouffer les gens, il y a quand même des boîtes. Hein. Anciennement, la Milan, il y a quand même. Tout est vendu à des.
Alors, non,
mais
il y a les silos.
Non, pas les silos. Non, c'est une
série. Ah, c'est après, oui.
Il y a 1, 2, 3, 4.
Non, la zone d'activité, vous parlez. Alors, si elle sera dans un plan local d'urbanisme, oui, sans doute. Mais surtout, cette zone qui bénéficiera d'un statut, celui de zone d'activité économique. Aujourd'hui, on a une zone qui s'est constituée par un jeu successif, mais qui, voilà, donc une zone d'activité économique avec un règlement, voilà, ça sera mis en place. Mais je crois que c'est indépendant, quelque part, du plan local d'urbanisme, sinon que, bien sûr, ce sera en zone d'activité économique. Après, ce que dit aujourd'hui l'agglomération, quand je leur ai proposé ça, et... Bon, il y a la pointe qui est ici. Hein.
Là, il y a la pointe Poquelin, là-haut,
voilà. Et il y a tout ça. Ils me disent, ben voilà, tout en allant, on va d'abord prendre ça, et après, on va voir, on va augmenter, on va élargir, et voilà, on va avancer.
Mais il reste alors, une zone économique.
Comment ?
Ça reste au niveau du plan local d'urbanisme.
La partie qui est là ? La partie de la main fermée, etc.
Oui.
Ben, aujourd'hui, bon, il y a un PLUIH, donc le plan local d'urbanisme intercommunal, avec un volet habitat, puisque c'est comme ça que ça se fait maintenant, qui est en cours de démarrage. Il ne faut pas se leurrer, il faut quand même aussi. Alors, le souhait de l'agglomération, c'est de le conserver en zone d'activité économique. Maintenant, il y a aussi l'État qui va intervenir comme partenaire sur la zone, qui sera particulièrement regardant sur les aspects. Environnementaux, que ce soit les aspects biodiversité ou les aspects boson humide. Il faut bien voir tout ça. Aujourd'hui, pour votre information, sur nous, on a arrêté notre PLU à un moment donné. Finalement, on a tout transféré à l'agglomération, on n'a pas été au bout. Des communes comme Petit-Saint-Martin ont été au bout, comme Saint-Val-de-Loire. Aujourd'hui, l'État, sur les PLU où ils avaient été au bout, l'État a rejeté tous les PLU sur la nature.
Ah oui.
Aujourd'hui, l'État considère que voilà, ces zones-là doivent faire l'objet d'un traitement particulier, de protection particulière, et donc ils sont extrêmement regardants. C'est pas pour rien que quand on a voté sur les SRCE, je vous rappelle que dans le truc il y avait marqué point de vigilance, un truc qui avait été rajouté on ne sait par qui et au dernier moment. Le premier point de vigilance dans SRCE qui était consacré à l'ensemble de la Picardie, c'était nous serons particulièrement vigilants sur tous les projets qui se développeront dans les sur Verberie et dans les environs de Verberie. Je ne suis pas au mot près, mais pas loin du mot près. Pour un document qui est écrit au niveau de la Picardie. Voilà. Donc, c'est vous dire qu'effectivement, sur ces aspects-là, ils sont extrêmement vigilants et l'agglomération, bah, elle fera ce qu'elle pourra, compte tenu des directives de l'État, du SRADET qui est en train d'écrire la région et qui reprendra également les activités environnementales. Mais c'est pareil, le SRADET qui écrit la région, de toute façon, il a les directives de l'État et ça doit être approuvé par l'État. Donc voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Hein.
Il serait peut-être important d'avertir quand même le propriétaire de la zone 1 à l'Univers du Nord qui est...
Pardon. Non, alors attendez. Quand je parle de tout ce qu'on vient de dire, je parle surtout de la partie main fermée. Cette partie-là, je pense, elle ne pose pas de gros problèmes.
La partie du haut, elle est partie sur le premier...
Oui, ils l'ont pas mis.
Ah oui, oui, non, mais on en a discuté, ouais. Et justement, un de mes reproches, en fait, pour vous dire, quand j'ai discuté avec eux, je leur ai dit, mais attendez, c'est de l'aménagement à la petite semaine, vous prenez l'existant et vous me dites après, ben voilà, s'il y a un projet qui se met là, ben on l'agrandira, voilà, on changera le périmètre et on l'agrandira. Mais, bon, on m'a répondu, ben oui, mais bon, d'abord on s'intéresse à l'existant, là on est en train d'en reprendre, il y en a un certain nombre, il y a toute une liste, hein. Il n'y a pas de Verberie, hein, évidemment. On est en train d'en reprendre un certain nombre, parce que même sur l'agglomération historique, j'allais dire, il y a des zones communales qui n'étaient pas forcément intégrées. Qui doivent être intégrées. Il y en a, attendez. Il y a la ZI Nord située à Compiègne et pour partie à Choisy-au-Bac, la ZAC de Royallieu à Compiègne, la ZAC de Mercière à Compiègne, la ZI dite la Petite Normandie à La Chelle et la ZA du parc Lucuru à la Croix-Saint-Trou. Donc voilà, il y a pas tout ça.
Bon. Ils nous donnent des exemples.
Parce qu'ils sont intéressés. D'accord. Pas
la service.
Personne n'est intéressé. Enfin, moi, je pense quand même d'avertir. Ils sont fortement intéressés par notre zone. Que leur terrain.
C'est pour faire part, comme on sait.
Il y a une valeur financière. Et qui a été.
D'abord, déjà, si on est en état de.
C'est ça. Coupé par la déviation de l'histoire. Je trouve ça un peu fort, même par rapport à l'Arc. Et je connais bien les relations entre. En bataille et Arc, qui ne sont pas toujours bon. Facile. Alors déjà que le préfet de région avait mis des zones humides à l'intérieur de l'usine, qui, bon, c'était amplifié, parce que lui, il ira tout seul.
À l'intérieur de l'usine, il y a les IF. Elles y sont encore d'ailleurs, elles n'ont pas été modifiées.
Les IF.
Mais les zones humides, enfin, moi j'en ai jamais vu.
Non, il n'y en a pas.
À l'intérieur du périmètre.
Oui, il y en avait puisque je suis monté au SRC.
Avant, ce qui n'est pas dans la place des zones humides.
On est en région de devoir tirer. Je suis certain qu'il y en avait.
Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, il reste des IF.
Il avait dit, je donnerai les permis de construire, et je lui avais même répondu, mais n'êtes pas au-dessus de la loi, vous aurez des recours, monsieur le préfet. Je m'aperçois, après, le sous-préfet m'a dit, tout ça a été retiré, on a refait des études. Il a plus mis.
Oui, parce que
la dernière place,
il n'y en avait pas.
Là, il n'y en a pas, très clairement.
Non, il n'y en a pas.
Bon, d'ailleurs, il y a eu, enfin, voilà, il y a eu des réexamens, il y a eu quand même des petites choses sur toutes les zones qui étaient des zones industrielles. Elles ont toutes été retirées comme zones humides. Néanmoins, nous, on reste avec beaucoup, beaucoup de zones humides. 200 hectares de zones humides.
Ah oui, mais ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Les zones humides, ça date depuis Mathusalem. On ne les a pas inventées, les zones humides. Après, si on ne veut plus de zones humides, on remblaye sur un mètre ou deux mètres d'épaisseur. Et puis
non, tu peux plus.
Non, on ne peut pas.
Non, c'est l'inverse.
Il faut garder les zones humides.
Ah oui, il faut les conserver, puisque maintenant.
Là, de toute façon, c'est
pas. Oui, non, parce que maintenant, c'est la nouvelle loi pour conserver les zones humides.
Mais il est bien dit que c'était conservé.
Oui, non, non.
Là, aujourd'hui.
On construisait dans les vallées parce qu'il y avait des bateaux et il y avait l'oie.
Il y avait l'oie, c'est
la vie, c'est ce que j'ai entendu.
Aujourd'hui,
il faut plus le droit de
construire. L'aberration totale.
Enfin, bon, voilà ce sujet. En tout cas, si vous rencontrez des propriétaires qui sont en zone humide, etc., dites-leur bien de ne pas jouer avec ça. Ça va très vite et très loin maintenant. Avec des condamnations extrêmement fortes. Donc il faut faire attention à tout ça. Et donc là, pour revenir à votre question, là, ça n'enlève la pointe, pardon, je montre avec ça. Je ne sais pas si vous voyez là, mais la pointe qui est ici, son aspect, sa vocation économique n'est absolument pas remise en cause. D'ailleurs, là, dans le PLUIH, évidemment, on va la remettre. Enfin, et puis, de toute façon, l'agglomération, elle ira dans ce sens-là. Enfin, elle, au contraire.
C'est malheureux qu'il foutent en l'air encore une belle partie.
Mais non, mais je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a la partie urbanisme en tant que tel, classification de la zone.
Oui, c'est deux choses différentes.
Et la partie périmètre d'intervention. Dans la carte présente, c'est le périmètre d'intervention. De toute façon, si vous remettez la carte, leur carte, en fait, ils vont intervenir sur la voirie desserte de cette zone qui était pointée par Patrick. Donc, c'est ça qui est intéressant. Sur la parcelle en tant que telle, l'agglo n'a pas à intervenir. Mais pour une délimitation comme ça, c'est vraiment une zone d'intervention d'interco.
Alors, sur
ça n'a rien le fait que ça puisse se développer sur.
Elle en pisse
dessus. Elle va intervenir.
Il faut payer, effectivement, parce que dans le PLUI.
PLUIH. Non, cette carte-là, c'est deux aspects qui sont extrêmement différents.
Oui, non, mais il faut
être vigilant. Mais on est vigilant.
Il faut être vigilant à ce que cette carte-là ne soit pas reprise dans le PLUIH.
C'est pour ça que Michel a déjà prévenu bien avant que ça arrive.
On est vigilant. Et voilà. On est vigilant.
Secteur déchetterie avec les entreprises au bout.
Alors on est en discussion là-dessus pour voir comment ça. On est en discussion justement pour voir comment il pourrait quand même inclure cet aspect-là.
Bah oui, parce que ça, dans la zone industrielle,
ça s'arrête là. Sinon, ça veut dire, puisqu'il ne l'intègre pas, ça veut dire qu'en amont de la zone au niveau du giratoire, bah, ces entreprises-là, ils ne vont pas l'intégrer non plus dans la signalétique. Donc, c'est une bonne chose. Bon.
On est dans la discussion, c'est pas arrêté. Moi, je voulais en parler aujourd'hui. Parce que au départ, d'ailleurs, je voulais vous parler surtout de l'aspect financier, en disant, mais attention, s'ils nous rachètent les terrains de la main fermée, etc., faut pas s'attendre à des prix extraordinaires. D'abord, s'ils vont venir... les domaines, c'est des terrains qui sont placés en zone humide. Voilà.
Non, mais après,
je vous laisse la parole, M. Coury, mais... comment
400 euros l'hectare.
Faut être...
En zone humide, c'est 400 euros l'hectare.
Bien payé.
Mais enfin, sur une partie où il y a eu des fouilles archéologiques, qui sont pas quand même, qui a eu
600
hectares de 2400
fouilles archéologiques. Bon, l'État est quand même un peu privilégié dans ce domaine à reclasser en zone humide ou en zone des zones qui ont coûté en aménagement déjà.
Mais alors, vous savez bien, sur ces affaires-là, il est sans état. Vous prenez le PPRI, il ne s'occupe pas de savoir s'il y avait eu des fouilles, des machins, des trucs. C'est inondable, inconstructible.
D'ailleurs, si ça avait été rebouché, on ne serait pas là.
Moi, je rappelle que déjà, sur le
si ça avait été rebouché à l'époque,
vous retirez 80 hectares.
Dans la zone
industrielle, 80 de l'Oise, alors, il faut être retiré sur le premier PPRI.
Alors, je voulais avoir cette discussion et je voulais aussi, voilà, je vous dis aujourd'hui, parce que j'ai retéléphoné avant le conseil municipal pour savoir où on en était de la réflexion dans tout ça. En fait, ils restent un peu campés là-dessus et me disent, mais effectivement, vous me posez le problème de ces bâtiments dont vient de parler monsieur Lamy, qui sont là
ça, oui,
sous forme d'un zoom. Hein,
oui.
Et là,
ce que tu avais déjà vu tout de suite.
Donc, on va regarder ce qu'on peut faire. Voilà où on en est.
Je rappelle quand même qu'il y a un principe qui est l'exclusivité des compétences,
oui.
Ce qui signifie que,
ce qui est un bien.
Par rapport notamment à la question de signalétique,
si
c'est hors ou dehors de leur zone, ça veut dire que l'ARC ne prendra pas en charge.
Ouais,
on pourrait dire que nous, sur le principe, on n'a plus de compétences économiques, bon, ça change beaucoup. Quoi.
Il y a un vide juridique qui s'en
fait. Oui, mais là... Bon. Là, je vous dis, dans la discussion que j'ai eue avec eux, c'est pas non plus pour rien que j'ai envoyé ça en faisant un zoom sur la zone, etc. C'est, bon, ça participe de la discussion, l'image aussi.
Oui,
donc,
discussion et du bon sens,
on a convenu que là, il y avait un problème.
Nous dire.
Par contre,
là,
ils
ne
sont
récent.
Pas du tout prêts. Est-ce que vous posez le problème français, vous savez.
Non, mais là, c'est pas gênant. Parce qu'elle a un accès sur la route directe qui est la départementale, donc de toute façon...
Sauf qu'il y a un petit espace public sur lequel d'ailleurs il faudra intervenir. Mais donc voilà, oui, vous avez raison, elle est isolée.
C'est
pas la même problématique. Hein. Non, mais ils ont convenu qu'effectivement il y avait un problème là, donc on va traiter, on va en parler. Après, la suite de cette affaire, c'est que ça va aller en conseil d'agglomération, avec un vote à la majorité qualifiée, mais enfin, voilà, ce sera voté dans ce. On va se faire
l'illusion.
Maintenant, il y a le dialogue et il va se faire n'importe quoi.
Oui.
Hein,
ce qui est fait, puis on discutera pas.
Mais après, ça reviendra au conseil municipal parce qu'on devra lui aussi approuver. Comme les statuts de l'ARC pour lesquels on a voté lors de la dernière
séance. Alors, si c'est voté par l'ARC et que nous on refuse derrière, comment ça se passe?
Ça
se passe à la majorité qualifiée. Donc,
c'est l'ARC qui prend le vote.
C'est une majorité qui
est. Donc le fait de le revoter ici, ça.
On aura manifesté
la majorité. C'est une question que j'ai posée aussitôt. J'ai dit, et si on n'est pas d'accord?
Bon, vous serez d'accord de
faire. On va répondre là-dessus, mais
je La réponse, elle est claire, c'est le principe de la majorité qualifiée.
Oui,
donc la procédure, c'est quoi? Vous avez une interco qui vous fait une proposition, qui prend une délibération pour vous faire une proposition de prise de compétence. Dès lors, c'est soumis à l'ensemble des conseils municipaux, derrière la majorité qualifiée. Avec en plus la notion de la commune centre,
c'est
25% de la population. La majorité qualifiée, ce sont deux tiers des communes représentant 50% de la population,
exactement.
Ou 50% des communes représentant trois tiers de la population.
Les deux tiers de
la population. Dès lors, plus il y a une majorité, vous avez beau avoir dit non, c'est terminé, ça s'applique.
Ah bah bien sûr,
C'est pour que justement on avance. Voilà. Maintenant, sur cette zone-là, il y a quand même du travail à faire, quoi qu'on en dise. Je pense que l'agglomération sera effectivement en mesure de faire le travail.
Non,
je ne m'en suis pas assuré, mais je pense que ça va au-delà de la voirie. Alors, voirie et réseau, bien sûr. Mais il y a aussi, je pense, sur une ZAE, vous avez un règlement auquel sont astreints les entreprises qui arrivent en termes de visibilité, de machin, de trucs. Bon, il y a la signalétique, évidemment, ça a été dit tout à l'heure. C'est tout un ensemble. Bon, je pense qu'ils récupèrent aussi la défense incendie. Hein, ils en font partie.
Oui.
Voilà. Voilà l'échange que je voulais avoir avec vous. C'est quand même, me semble-t-il, un sujet important. Il y a encore des commentaires.
Éventuellement aussi les vidéoprotections.
L'éclairage public.
Oui, bien sûr.
C'est vraiment la gestion du périmètre.
Gère tout.
Tout à fait.
Donc là, on aura plus à payer l'éclairage sur cette zone-là, parce que là, aujourd'hui, c'est nous qui la payons.
On clôt le dossier là-dessus ? Bon, l'idée, c'est que, voilà, c'est que tout le monde soit bien informé de ce qui se passe et de la manière dont ça se passe.
La mise en place, oui. Après, l'électricité, principalement, c'est nous.
Donc une compensation financière.
Oui, mettre un compte.
Bien. Point.
Question diverse.
Question diverse.
Alors, je cherche.
Alors. Questions diverses. Alors, la première question diverse qui, pour laquelle, en fait, j'ai reçu un courrier, donc je la prends en question diverse pour y répondre, de M. Michel Biaise, qui m'a adressé un courrier dans lequel il me dit qu'il renouvelle formellement et par écrit sa demande exprimée lors du dernier conseil, à savoir qu'il est indispensable que nous recevions Mme Capron, la directrice du Parc naturel régional, lors d'une prochaine réunion du conseil municipal. Voilà, chacun aura le loisir de s'exprimer, de poser des questions, d'exprimer son opinion et ainsi de préparer son avis en son âme et conscience pour la délibération à suivre. Les élus de Verberie sont adultes et ont droit à une information équitable. Le seul avis du maire, tout catégorique qu'il soit, ne permettra pas de délibérer sereinement. J'en suis tout à fait d'accord. Donc ma réponse, je vais confirmer, mais j'ai déjà dit oralement, la réponse que j'ai faite l'autre jour lorsque j'étais interpellé, interpellé gentiment d'ailleurs, durant le conseil municipal avec la même question, ma position effectivement reste la même que celle exprimée lors du dernier conseil municipal. Je ne souhaite pas inviter ni le président du PNR et ou sa directrice à un conseil municipal avant que celui-ci ne se soit prononcé pour ou contre l'adhésion de la commune. Une fois saisi par le Conseil régional des Hauts-de-France, nous délibérerons entre nous dans les délais qu'il nous fixera. Par souci d'équité, il nous faudrait aussi inviter d'autres parties. On pourrait aussi inviter la Chambre du commerce et de l'industrie de l'Oise, l'agglomération de la région de Compiègne, etc. En outre, un conseil municipal ne délibère pas sous influence. Les documents de l'enquête publique, le rapport d'enquête, les courriers reçus depuis sont bien évidemment à la disposition des conseillers qui peuvent les consulter autant qu'ils le souhaitent. Nous devrions d'ailleurs recevoir avant le vote, si j'en crois la lettre que m'a adressée le président du PNR, des éléments complémentaires qui seront évidemment communiqués. Voilà, notamment sur les aspects financiers. En termes de tentative, alors je complète, hein, en termes de tentative de mise sous influence, vous avez, je pense, tous reçu une lettre de l'association Pâte Centrale en Basse-Automne. Hormis le fait que je sois un individu peu recommandable, il n'y a aucun argument, sauf celui d'un pilotage direct par l'agglomération.
Moi, j'ai pas encore lu, c'était dans le courrier ou c'est vous qui le dites ?
Non, c'est dans le courrier.
C'est une d'agression.
C'est dans le courrier.
C'est totalement faux. D'ailleurs, certains le savent bien, puisqu'avant l'été de 2016, nous avions déjà eu un débat interne sur le sujet et j'avais fait part de mon ressenti concernant l'adhésion de la commune au parc naturel régional, compte tenu de tout ce que j'ai exprimé dans l'avis que j'ai formulé. Voilà. Donc voilà, moi, la réponse que je fais à ce point-là. Maintenant, encore une fois...
Madame Javelot, excusez-moi, vous pourrez noter toute la réponse au courrier que j'ai fait à monsieur le maire. La réponse concernant le refus de faire venir...
Mais c'est Michel, c'est moi qui valide le compte-rendu du conseil municipal.
Non, mais j'ai quand même le droit de demander à Mme Jadot si elle peut le faire.
Tu me le demandes à moi.
Ben, je te demande à toi, est-ce qu'il serait possible voilà. que ça soit écrit noir sur blanc sur
le procès verbal
de délibération.
Ça le mais sera. Ce sera une question diverse, donc comme à chaque fois qu'il y a une question diverse, c'est marqué au compte-rendu du conseil municipal.
Parce que je voudrais quand même que les habitants de Verberie sachent que, bon, ben voilà, pourquoi vous refusez de faire...
Michel, pourquoi vous refusez ? C'est quoi
parce que...
Justement, pourquoi vous refusez ?
Si c'est personnel, non, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous voulez pas répondre, il n'y a pas de souci, moi, je...
Non, non, c'est pas personnel.
La réponse, elle a été
faite.
C'est
pourquoi
c'est mis sous influence. Et le courrier qu'on a reçu d'ailleurs, c'est un courrier sous influence.
Il n'a pas vu le courrier
qu'il a envoyé. Non, mais je ne parle pas de la mise sous influence par le directeur et par le président
du PNR.
Oui, mais ça c'est une autre chose.
Non, c'est pas autre chose, c'est le vrai sujet.
Le vrai sujet, c'est celui-là.
L'ingénieur est, sans compter que le président du PNR est aussi vice-président du Conseil général.
Hein, n'est plus.
N'est plus.
Non. Ah, il n'est plus.
Ah, donc l'influence est moindre.
Oui. Enfin, si, il a quand même une autre fonction qui est.
Bon, mais je sais qu'à une époque, effectivement, en tant que vice-président du Conseil général,
oui.
Il avait sabré pas mal de communes au niveau
bon,
des aides.
Oui, je peux en parler. Voilà. Bon.
Mais il y a vraiment. Enfin, voilà, vous l'avez dit d'ailleurs, il y a un problème de mise sous influence. Vous avez tous les documents. Vous pouvez les consulter autant qu'il vous plaît, vous pouvez les lire, parce que d'ailleurs, quelqu'un qui vient faire une présentation, il l'a fait forcément, c'est normal d'ailleurs, c'est humain, dans son sens. Là, vous avez les documents qui établissent la règle, vous lisez les documents et vous avez la totalité de...
Moi, j'appelle pas ça de la démocratie, c'est de la démocratie nord-vietnamienne que tu nous fais là. Parce que j'ai retrouvé.
Tu devrais faire un peu de démocratie.
Non, laissez-moi finir. Vous vous moquez de moi. Laissez-moi finir. J'ai retrouvé dans les
Nord-coréenne.
J'ai retrouvé dans les documents de la Dropbox à une certaine époque.
Oui.
Non, mais laisse-moi finir. Que tu étais 100% pour le PNR. Hein? On était gagnant-gagnant. Si tu veux les documents, je pourrais t'en faire une photocopie. Tu avais même ton siège à la P3R, hein, qui t'avait été proposé. Hein,
c'est d'ailleurs bien pour ça qu'on change d'avis maintenant, parce qu'on y a été, on l'a vu sur place.
Non, toi René, t'as retourné ta veste, t'étais 100%.
Fais attention à ce que tu dis. Hein.
Non, mais je te le dis.
Fais attention à ce que tu dis.
On reste calme.
Fais gaffe.
Justement.
Michel, si je peux me permettre. Michel, on a changé peut-être d'avis. Chacun appréciera. Mais par contre, on a expliqué pourquoi. Tu peux pas. À un moment donné, il y a des facteurs qui font que ta pensée évolue. Et heureusement. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'on est. Capable de comprendre autour de la table que depuis qu'on est à la municipalité, mais c'était à l'époque de M. Floury la même chose, c'est que quand on vous met des contraintes supplémentaires, on n'a pas besoin de s'en rajouter. Là, en l'occurrence, on a bien vu qu'on était automatiquement protégé, puisque si j'ai bien compris, et moi je suis allé me renseigner tout seul hein, sur le site, moi je travaille à Creil qui est dans le PNR, et je veux pense que pouvoir te dire que la pression foncière, bah, ils l'ont plus qu'ailleurs, et c'est pas le PNR qui fait quelque chose, parce que le PNR va te dire, bah, tu dois respecter certaines contraintes en plus de celles qui existent déjà. En revanche, la population que tu vas mettre dans ce que tu vas construire, c'est pas le PNR qui va te dire oui ou non. Hein. C'est pas tu seras libre, tu récupéreras si malheureusement tu dois récupérer une certaine population. Mais en l'occurrence. On est quand même tous capables de comprendre qu'aujourd'hui, entre les inondations, les zones humides, les contraintes environnementales que je ne sais pas par cœur, mais qui a des adjoints, on est déjà plus que contraints. Donc si c'est encore pour se rajouter un interlocuteur en plus, payé par la collectivité, ben, qui nous apporte des conseils qu'on a déjà dans d'autres structures, moi, personnellement, je n'y vois aucun avantage. Voilà. Et j'avais dit pendant la campagne, c'est vrai, peut-être que le PNR sera étudié, voilà. Mais aujourd'hui, oui, je dis, bah non, finalement, quand j'ai vu ce qui se passe, honnêtement, on n'en a pas besoin.
Avec ces gens-là, ils se battent d'avoir...
Le débat...
Mais
ils ont évidemment... Qu'est-ce qu'il y aurait à cacher ?
Pourquoi on ne peut pas recevoir, ne serait-ce qu'une demi-heure ou une heure ?
Il suffisait d'aller... T'avais qu'à aller au conseil municipal de Béthisy, où ils sont venus. Et t'aurais eu la vie.
Ah, voilà. Bah c'est facile, Béthisy, mais moi, je suis pas de Béthisy.
Puis t'aurais vu ce que c'est que la contrainte et la pression. Voilà.
Quand on voit comment ils ont voté à Béthisy.
Ah, mais ils ont choisi, c'est tout à fait leur...
Alors, deux choses. On a répondu... Attendez.
L'objectif verberie à l'époque, l'équipe, moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'on se dérègle pour des conneries comme ça, mais... Et arrêtez, on est tous humains, on n'est pas débiles, on est là pour discuter.
Et oui, bah c'est ce qu'on fait.
Arrêtez de vous enflammer.
Attendez.
Parce que non, attendez, on n'est pas dans une guerre urbaine, on est dans un conseil municipal. Déjà, respectez-vous entre vous. Et moi, ça me gonfle.
Mais
on se respecte pas, ça me gonfle. On se fout de la gueule de Michel, ça me gonfle, on est marre.
Ouais, moi, je parle d'un principe.
Non, je vais dire un mot, Thomas. Je suis plus jeune, regarde. Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, je pense que c'est... Ton ressenti que tu as, moi je l'ai un peu au fond de moi, mais moi je m'en fous, je le dis pas, moi je garde ça pour moi. je pense que ce que Michel veut dire aujourd'hui, il ne faut pas l'engueuler, il veut comprendre, il ne faut pas... voilà. Je pense qu'il veut dire, c'est qu'à l'époque, on a milité à l'époque... Non mais, laisse-moi.
Non, on en a parlé.
C'est qu'on a milité avec notre équipe, qui était bien Objectif Verbery, qu'on était quand même pour le PNR. Moi, je pense que je ne suis pas non plus débile à l'époque, non plus, quand je suis
en train de... Non, on avait
je suis lucide, voilà. Moi, je pense que ce qu'il veut dire, je comprends ce qu'il veut dire, c'est qu'à l'époque, on s'est quand même battu pour un truc, quand, de façon, c'est de la politique, hein, faut pas non plus. Comme M. Foury, et j'ai tout respect pour lui, qui se battait pour autre chose, pour sa centrale à l'époque, j'ai pour sa centrale, voilà. Non, mais j'ai rien contre personne, m'en fout. Moi, j'ai milité avec ma pancarte, j'avais marqué, il me rappelle, chasseur en colère, parce que j'avais mon terrain qui était là-bas, parce que j'allais tirer 4-5 pigeons, parce que j'avais strictement rien à faire, enfin bref. Je pense que
alors,
si on n'a rien à se reprocher, pourquoi pas faire venir ces gens-là? On les écoute. S'ils nous racontent du blabla, que ça ne nous sert strictement rien, bon, on les aura écoutés. Il y aura une poignée de gens qui seront contents, il y aura une poignée de gens qui seront grincheux, et puis on aura vendu notre vaisselle ou ils n'auront pas vendu leur vaisselle, et puis c'est tout. Le sujet il sera clos, et puis Michel il dira ben non, parce que c'est pas Michel qui a le dernier mot. Et ben j'en veux pas, et puis c'est tout. Alors, je pense que c'est alors, tout, faut non, pas s'énerver attends, pour des conneries comme ça.
Non, moi je suis pas énervé du tout.
Non, mais c'est pas. Non, mais c'est chiant,
d'abord, c'est le conseil municipal qui aura le dernier mot.
Oui.
C'est pas moi.
Ouais, mais bon.
Ensuite, là, j'ai donné ma réponse. Je pense qu'effectivement, on doit rester à voir ce truc entre nous. On n'a pas à faire venir des gens pour passer sous influence. Parce que, voilà, il faut qu'on reste indépendant. Encore une fois, tous les documents sur lesquels on doit se prononcer.
Michel, il y en a 600 pages, les gens du conseil municipal n'iront pas lire 600 pages.
Tous les documents d'urbanisme s'imposent au SCOT. Tous les documents du PNR s'imposent au SCOT. Donc, c'est une contrainte légale.
Oui.
Vous ne pouvez plus échapper sur, sur le bâti.
Non, ce sont des documents d'urbanisme qui doivent être...
Je vous ai dit, je
compatible avec la charte du PNR. Pas conforme, compatible.
Ah, si. Non.
Compatibilité, conformité, c'est pas la même chose.
Non.
Après, de toute façon, qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas dans le PNR, le jour où on aura un projet, par exemple, qui serait situé sur un endroit où le PNR considère comme étant une zone de biodiversité, un biocorridor, tout ce qu'on veut. Ils s'y opposeront, ils nous attaqueront, ils feront des recours. Donc vous le savez très bien.
Mais c'est pas au périmètre, on l'avait fait sur la question de la centrale. C'était pas chez eux.
Et moi je l'ai vu, moi je l'ai vu à la centrale.
Pour revenir, là, mon intention, c'était pas d'ouvrir le débat sur le PNR, puisque nous aurons de toute façon un débat sur ce sujet-là. C'était de répondre à la question qu'avait posée Michel. Je donnerai juste un dernier élément. J'ai eu l'autre jour, ça m'a un peu d'ailleurs pas surpris, mais la Chambre du commerce et de l'industrie a fait une étude du nombre de documents de planification auxquels était soumis chaque commune de l'Oise. La commune qui est soumise de l'Oise, qui est soumise au plus grand nombre de documents de planification, c'est Verbery, dans l'Oise. Voilà.
Oui, quand même.
Trois sages, un PPRI, et
des zones humides,
c'est pas la peine d'en rajouter. Quoi.
Voilà, c'est la ville de l'Oise, c'est la commune de l'Oise qui est.
C'est pas grand chose un débat. On débat de n'importe quoi.
Mais on débattra entre nous.
Tu ne veux pas débattre.
Si on débattre. On débat pas avec eux.
C'est ce que Michel vient de dire. Mais c'est ce que Michel vient de dire.
C'est ce que je viens de dire.
Je ne veux pas débattre avec des gens qui ont changé les cartes au dernier PPRI. Je vais quand même vous le dire. Hein. Au dernier PPRI,
au Charpénère,
ils ont envoyé une carte. Et toute la zone industrielle de Verbery était passée en zone naturelle. Bon, je suis donc allé voir M. Marchand et sa directrice, auquel j'ai dit, écoutez, c'est pas possible de passer la zone industrielle en zone
naturel.
Ils ont dit, bon, ben, effectivement, on la retire. Bon. Et puis, le jour du vote, je reçois la charte des 600 pages. Ils m'avaient entre-temps renvoyé les documents avec la nouvelle carte. Ils ont dit, bon, somme toute, tout va bien, ils ont remis la zone industrielle. Donc, tout ça va très bien, on va donc adhérer au PNR. Et le jour du vote, je reçois la charte, et là, je vois qu'ils avaient remis en zone naturelle. Ma naïveté me fait dire, tiens, ils se sont trompés de carte, je vais donc appeler la directrice du PNR. Et la directrice du PNR me dit, oui, nous sommes revenus en début de semaine et on a décidé de rechanger. Eh bien, je vais vous dire, ça, c'est de la République bananière. Bon, et...
Ce sont les méthodes marchandes.
Ce sont les méthodes marchandes.
Oui, je suis d'accord avec vous.
Et même si c'est enregistré, je peux dire.
Ah oui, mais moi, je le dis.
Ce sont les méthodes marchandes. Bon, ensuite, le maire de Pontpoint...
Ils ont fait la même à Pontpoint.
Ils ont fait la même à Pontpoint, sauf que le maire de Pontpoint n'a pas relu le jour la carte. Il n'a pas regardé la carte. Et il a fait voter, a fait confiance, et après on lui a dit, ah, mais monsieur, le conseil municipal a voté.
Je confirme.
Bon, voilà les méthodes du PNR. Et moi, et tu voudrais qu'on reçoive ces gens-là? Mais moi, je ne veux pas les voir.
Voilà, c'est chacun.
Bien. Je propose de passer à la question suivante. Donc la question suivante était posée dans la même lignée. Monsieur Lamy me demandait à quelle date est programmé le débat quant au PNR. Donc d'ailleurs, c'est un extrait du courrier de Patrice Marchand que j'ai mis dans le dossier. Donc vous pouvez aller lire le courrier qu'il m'a adressé, évidemment. Et vous avez d'ailleurs aussi le courrier qu'il a adressé en réponse à la Chambre du commerce et de l'industrie. Il écrit « Voilà ce que je souhaitais vous préciser avant que votre conseil municipal ne soit sollicité par la région des Hauts-de-France pour adhérer au parc naturel régional. » Donc c'était la conclusion de sa lettre. Et justement, il faut qu'on attende d'être sollicité par la région des Hauts-de-France. Alors Béthisy a décidé de délibérer, mais alors là, je ne sais pas, ils vont devoir redélibérer de toute façon parce qu'il faut qu'ils attendent d'être sollicités par la région des Hauts-de-France.
Ah, donc c'est pas valide.
Il faut attendre d'être sollicité par la région des Hauts-de-France.
Donc c'est le vote qui a été fait.
Donc leur vote est caduque.
Je ne sais pas. Mais je ne veux pas me prononcer. Aujourd'hui, quand je lis de toute façon le courrier que m'a envoyé Patrice Marchand, lui-même, il écrit qu'il faut que je sois sollicité par la région des Hauts-de-France. Et j'ai vu aussi un peu les. Il y a quand même des juristes à l'agglomération qui ont regardé les textes. Et c'est pareil, il faut qu'on soit sollicité par la région des Hauts-de-France. Bon, ça va arriver, mais je ne peux pas vous donner la date.
Mais pour viser la décision de la région et après se prononcer. En général, c'est ça. On vise,
parce que la ça région, va arriver.
C'est comme c'est un parc régional, la région, elle est prioritaire. D'ailleurs,
c'est elle qui pilote.
Il va y avoir un frein à l'élaboration du PNR. Parce que ça s'avère une strate supplémentaire très coûteuse et qui en plus rajoute des contraintes au territoire. Donc j'ai entendu dire que certainement qu'on va aller vers une réduction drastique de la création. Pour l'instant, c'est un stand-by. Il n'y aura plus de création de nouveaux parcs naturels régionaux. Parce que voilà, dans le cadre de la réforme territoriale et la réduction des strates. Il y a des lois qui sont suffisantes.
On n'est pas là pour en débattre. Je propose de passer à autre chose, si vous le permettez. On en débattra le moment venu.
Par habitant, la cotisation,
alors, aujourd'hui, elle était de 2 euros, enfin de mémoire, attention, alors je parle sous réserve. Elle était de 2 euros et quelques, mais elle doit augmenter justement dans la nouvelle charte. Et je n'ai pas le montant. Et d'ailleurs, je crois que dans sa lettre, justement, Patrice Marchand écrit un document supplémentaire dont je parlais tout à l'heure sera renvoyé au moment de où on recevra la sollicitation, dans laquelle on devrait avoir justement des éléments financiers. Mais sachant que de toute façon, la cotisation, c'est l'année N, et l'année N plus 1, le conseil syndical peut décider de l'augmenter, comme partout.
Bien sûr. Le prix à la création du PNR.
Mais bon. On en discutera le moment venu.
On a fait une estimation à 10 000 euros.
Je passe à la question, une autre question, enfin la dernière d'ailleurs, question de M. Lamy. J'ai demandé un bilan de l'opération culturelle qui s'est déroulée dans le parc du château, c'est-à-dire le Festival des Forêts. Monsieur le maire s'y est engagé, effectivement, je confirme. Je souhaiterais donc que nous soit fourni ce bilan fréquentation. Alors, je vais, avant de donner la parole à l'adjointe à la culture et à l'animation, voilà ce que je voulais vous dire. Parce que la culture est l'un des piliers du vivre ensemble, nous organisons à Verberie de nombreuses activités d'animation de différents niveaux culturels, expo Playmobil, conte d'automne, fête du jeu, défilé Halloween, 13 juillet, trois petits points. Toutes ces manifestations participent à l'attractivité de la ville et il en faut pour tous les publics. Attractivité de la, dont la ville a d'ailleurs bien besoin. Avec notre entrée dans l'agglomération de la région de Compiègne et de la Basse-Automne, nous avons eu l'an dernier l'opportunité de faire venir le Festival des forêts à Verberie. Nous avons décidé de saisir cette opportunité, ce qui avait d'ailleurs été validé en commission par un avis favorable à l'unanimité. En outre, j'indique que d'autres communes étaient candidates, dont au moins une de la Basse-Automne. Donc voilà. Il s'agit effectivement d'une manifestation de haut niveau culturel à laquelle ont assisté 600 personnes, parmi lesquelles se trouvaient, dès cette première édition, des habitants de Verberie. Je crois qu'il y en avait 25 au moins, puisqu'on avait fourni une subvention. Mais c'est une première. Outre la qualité de la prestation, elle a fait découvrir notre ville et notre patrimoine, en particulier le château d'Aramon et son parc, à de nombreuses personnes extérieures à la commune. Le Festival des forêts à Verberie a été une grande réussite et nous allons proposer de reconduire cette manifestation en 2018. Pour ce qui concerne le travail des équipes techniques, elles sont mises à chaque fois largement à contribution, notamment pour la mise en place du matériel. Je les remercie au passage de leur disponibilité et de la qualité de leur travail, parce que c'est vrai qu'elles travaillent souvent tard la nuit dans ce cas-là et de bonne heure le matin. C'est également le cas pour les manifestations organisées par des associations, fêtes du basket, loto du néo-club, virgule, trois petits points, j'ai pris ces deux-là parce qu'elles me venaient par la tête, c'est pas pour stigmatiser qui que ce soit, hein, et du comité des fêtes, brocante, salon gastronomique et artisanal. Dans le cas du Festival des forêts, la participation a été limitée, puisque c'est l'association du festival qui a mis en place les chaises, les estrades, les éclairages et toute l'installation électrique. Ça, on n'a pas touché. Hein, je crois, voilà. Les équipes techniques ont monté le barnum. Alors, en fait, on a dû le monter, le démonter et le remonter. C'est ça. Oui, ce barnum ancien et lourd prend beaucoup de temps au montage. C'est vrai. Voilà. Donc, je cède maintenant la parole à l'adjointe à la culture.
Ça, c'était pas bilan, ça.
Non, c'était mon c'était introduction. Oui, mais la mienne. Mais vous exercerez la vôtre. Je donne la parole à l'adjointe à la culture et à l'animation.
Donc, monsieur Lamy, je vous remercie de cette question. Ça m'a permis de faire un bilan de toutes les animations que nous avons effectuées depuis le début de cette année, dont le Festival des forêts. Donc, on va commencer en janvier par la réception pour les vœux, une pièce de théâtre au château, l'entrée étant libre, 140 personnes pour un coût de 413 €. Il y a eu ensuite la galette des rois. En février, nous avons eu la nuit des bibliothèques, entrée libre, 100 personnes pour un coût de 284,78 €. En mars, nous avons eu l'exposition des jouets anciens, entrée libre, 1000 personnes et 1102,52 €. Il y a eu ensuite Au bonheur des livres, participation de notre bibliothécaire Marie-Françoise Ducrot. Alors, Au bonheur des livres, ce n'est pas organisé par la ville, c'est organisé par l'association LAPK. Mais par contre, je l'ai nommé puisque notre bibliothécaire a participé à la journée du samedi ou du dimanche, je ne sais plus, au moins 5 heures de travail. Concernant le mois d'avril, nous avons eu Petite Bulle en fête, qui est une manifestation dont le coût a été pris en charge par la médiathèque départementale de l'Oise. Nous avons eu ensuite la Balade buissonnière, qui est un conte en extérieur au niveau du parc du château et sur les bords de l'Oise. Donc là, également, entrée libre, 50 personnes pour 520 €. Nous avons eu en mai la Fête du jeu, entrée libre, 250 personnes pour 375 €. Nous avons eu en juin le prix Ficelle, donc tous les enfants des écoles maternelles et primaires pour un coût de 150 €, plus le coût du personnel de bibliothèque, Madame Ducrot. Mais ça, c'était pendant ses heures de service. Et le prix Ficelle nous a valu le résultat de 390 votants, donc ça a mis beaucoup d'animation dans nos écoles. En juillet, nous avons eu l'été en roue libre, 26 enfants, 15 adultes qui ont participé pour un coût pris en charge par la NDO. Nous avons eu l'inauguration de la rue de la République. Nous avons eu la fête nationale pour un coût de 9 442,23 €. puis le Festival des forêts, qui là a eu une entrée payante effectivement pour un coût de 6 340,91 €. En août, nous avons eu une rencontre avec des peintres haïtiens, là encore entrée libre. 12 enfants de la MJC ont été coachés par 12 peintres haïtiens pour un coût de 64,29 €. En septembre, nous avons eu le forum des associations pour 124,08 €. Ensuite, en octobre, nous avons eu le défilé Halloween en interassociatif et la ville. 400 personnes ont été pointées. Nous avons eu ensuite l'expo Playmobil. Alors là, on a battu le record d'affluence puisqu'il y a eu 5800 personnes qui se sont déplacées à cette manifestation. En novembre, nous avons eu le compte d'automne, entrée libre. 126 personnes au premier compte. Alors là, c'était une première. On a osé faire ça un dimanche. Et nous avons eu 126 personnes le compte de 15h et 66 personnes pour le compte de 18h. Coût financier pour la ville, 1 070 €. Nous aurons le repas des aînés ce week-end. Et en décembre, il y aura la saison des livres, le colis de Noël des aînés et le colis de Noël de la maison de retraite. Nous avons aussi proposé 3 expositions à la bibliothèque, entrée libre, les heures italiennes, tout l'été, l'expo de croquis en même temps que la fête du jeu par l'association Agriculture, et nous avons une expo conférence sur l'aviation pendant la Grande Guerre au mois d'octobre. Et actuellement, non, elle est terminée, une expo sur 14-18. Toutes ces activités ludiques et culturelles, divertissantes, accueillent tous les publics, petits et grands. Le coût comprend les charges de personnel, le coût administratif, les arrêtés, etc., les frais de réception et les montants dus aux professionnels. À chaque manifestation, nous travaillons avec les commerçants de la ville. Tous les visiteurs font travailler également le commerce local. J'en viens par exemple à Playmobil parce que des gens évidemment sont allés déjeuner chez certains de nos restaurateurs. Et par exemple, c'est le restaurant Le Goujon qui a préparé le repas du Festival des forêts. Et sur les 600 spectateurs, au moins une centaine ont pris le repas sur place ce soir. Donc, j'ai lu à une époque, justement, que les personnes qui participaient, j'ai lu dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, que les personnes qui participaient au Festival des forêts étaient taxées de bobos. Moi, je veux bien. Effectivement, on peut taxer ces personnes de bobos. Par contre, quand je vois des personnes de Verberie à petits revenus, qui participent à toutes les manifestations de la ville et qui ont participé notamment à celle-ci et qui ont payé leur place, je peux vous assurer qu'ils étaient contents de voir et de lire qu'ils étaient taxés de bobos. Et j'ai un regret, c'est que pour toute cette manifestation qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, il y a très très peu d'élus qui sont présents. Merci.
Donc ça, c'était la réponse en fait à la question, j'ai pas compris.
Oui, oui, c'était la réponse à la question.
Donc en fait, quand on demande un tout petit peu le détail du bilan financier et des participations, puisque la question initiale, ça me rappelle que quand on vous l'a posé, on vous a demandé un détail un peu sur les mises à disposition personnelles pour qu'on maîtrise un petit peu le coût que ça représente pour nous. J'ai dit oui, on vous donnera le détail. Donc le détail, c'était quoi? C'était, ça nous a coûté...
Pour quelle manifestation en particulier? Le Festival des forêts?
Je crois qu'il y a eu une question qui a été posée.
Le Festival des forêts, je vous ai répondu que...
Un tel déroulé, mais ce n'était pas la réponse à ma question, ça.
Non, mais c'est...
Non, mais c'est bien de faire un récapitulatif de tout ce que coûte...
C'est très bien, mais...
Et ça montre quelle est l'activité.
Alors, le Festival des forêts, le coût a été de 6 340,91 €.
Avec les charges de personnel, sachant que...
Non mais voilà, c'est bien d'expliquer un peu ces éléments-là.
Avec les charges de personnel,
c'est ce que c'est ce que je vous ai dit. Toutes ces manifestations, ça comprend les charges de personnel, les coûts administratifs, les frais de réception et les montants dus aux professionnels. Ouais,
l'adhésion était de 3 000 €, je crois, 3 000, de mémoire.
3 000 pour le Festival des forêts, donc il y a 3 000
plus l'aide aux personnes de Verberie qui ont pris une place. Voilà. Donc on avait alloué une aide financière.
D'ailleurs, on pourra rediscuter.
C'est
25
intégré.
Ouais,
oui, intégré. D'accord.
Ah oui, c'est intégré, oui. C'est le coût global.
C'est le coût global. Tous les chiffres que je vous ai donnés, à chaque fois, c'était le coût global.
Ah, c'était même 3500.
3500. Donc 3500.
Voilà. Mais ça peut être. 3500 et 25 fois 5 pour les entrées.
Bon, 125. Bon. D'ailleurs, on peut avoir une réflexion pour 2018. Est-ce qu'on avait accordé 5 euros? Est-ce qu'il ne faut pas accorder plus en 2018 pour que justement ça permette à plus de personnes de venir voir ce spectacle de qualité? C'était vraiment un spectacle de qualité. Ça, c'était remarquable. Bon, il y a des. Puis, l'intérêt du bilan qu'a fait Madame l'adjointe, c'est aussi de montrer que. Voilà, on organise vraiment pour tous les publics et ça suscite un engagement très très important. Maintenant, il n'a pas été évoqué parce que, effectivement, vous avez raison, ça coûte hein, de faire des choses et c'est bien aussi de le dire. Sur le plan de l'engagement des personnels, par exemple, on organise la brocante tous les ans. La brocante, si on prend le coût global tel que vous l'avez fait, ça nous coûte pas mal d'argent. Les équipes techniques sont mobilisées pendant combien de temps? Pendant une semaine?
Brocante, oui, entre la préparation de la brocante et le suivi, oui.
Hein? Donc toute l'équipe technique. Avant, hein. Donc voilà, trois jours avant, deux jours après, c'est
oui,
ça?
Trois jours avant, deux jours après.
Deux jours après? Bon, mais pour tout ça, c'est vrai, ça coûte de l'argent. Maintenant, c'est bien d'avoir une brocante à Verberie. Voilà, ça coûte de l'argent, c'est des choix, effectivement. Voilà. C'est bien d'avoir des activités. C'est bien aussi d'avoir une manifestation telle que le Festival des Forêts, qui permet à des personnes extérieures de venir, qui ne seraient peut-être pas venues à Verberie, sinon. C'est un autre aspect des choses. C'est aussi, bien sûr, pour que les habitants de Verberie en profitent. Mais c'est un autre aspect des choses. Mais c'est bien d'avoir toute cette complémentarité, cette diversité du Festival Playmobil à, je ne veux pas dire que le Festival Playmobil, c'est
Expo,
au Festival des Forêts. Mais il est clair que
c'est pas le même public
qui est attiré, mais c'est bien d'avoir toute cette diversité.
La fête nationale aussi, qui est complètement dans un ordre différent. Là, on a une énorme dépense aussi au niveau du personnel. Forcément, c'est le week-end, c'est de nuit. Donc, ça multiplie les frais d'organisation.
Maintenant, on fait rien sans rien. Et avec peu d'argent, on essaie quand même d'en faire le maximum. Au final, peu d'argent.
Par contre, je voudrais juste répondre à Odile. Oui, c'est vrai, vous avez raison qu'il y a peu d'élus qui participent. Moi, j'ai ma raison.
Je ne mets pas en accusation, c'était juste une constatation.
Moi, je dis juste pourquoi moi je ne suis pas présent. Moi, je dis devant tout le monde, en conseil municipal, parce que moi je travaille 7 jours sur 7, en moyenne 14 heures par jour, je suis crevé, j'arrive en retard parce que j'étais en train de travailler. Et un week-end sur deux, j'arrête le samedi à 14 heures, et quand j'arrête le samedi à 14 heures, j'ai qu'une envie, c'est de me reposer. Voilà pourquoi je suis peu présent.
Je comprends aussi.
Non,
hein.
Non, mais
moi je vous dis pourquoi. Moi je participe à peu de choses parce que je travaille énormément et je suis en plein développement de ma petite société qui est en train de partir en fusée dans le monde du bois.
J'ai prévu d'embaucher.
Tiens, je vais le dire, même si vous n'avez rien à foutre, je vais embaucher 3 personnes normalement si c'est parti pour 3 personnes handicapées. C'était mon souhait. Donc c'est parti pour.
Ça,
voilà.
C'est bien,
ouais,
bien.
Donc voilà. Donc,
félicitations.
Ouais, je suis content. Donc on risquerait d'être 7 personnes en 2018, donc je suis content, c'est une fierté.
C'est bien ça.
Et je ne travaille pas sur Verberie, personne ne fait travailler, malheureusement. Je travaille sur Gauvieux, la Morlaix, Chantilly, bon. Voilà.
Je travaille pas sur Verberie.
Personne ne fait travailler. Voilà. Si on, travaille beaucoup sur Gauvieux, la Morlaix, Chantilly, Senlis, Viarme, Boran-sur-Oise. J'ai une belle prestation.
On peut continuer cette discussion, mais quand même de lever. De terminer le conseil municipal là, de clôturer. Est-ce qu'il y a des questions?
J'ai un autre truc pour Michel, par contre. C'est pour une société de Verberie. C'est important. Oui. Moi, je suis partisan de cette société. J'ai la société 4-1 Paysages qui m'a demandé s'il était possible de mettre le panneau au niveau du panneau des sociétés au rond-point là-bas.
Parce que quand elle va s'installer justement...
elle n'est pas encore installée.
Elle a pratiquement fini, là, en train de terminer quelques petits détails, parce que je suis...
Mais attends, je réponds tout de suite. Il n'y a pas de problème, on le fait pour toutes les sociétés. On a continué la politique qui était en vigueur avant 2014, qui consiste, en général, on met deux panneaux. Il y en a un qui est pris en charge par nous et un par l'entreprise.
Voilà.
Donc, il suffit qu'il s'adresse à nous, voire directement à M. Leblanc.
Je dirais qu'il est de vous voir.
Ouais, voilà.
Et très bien.
Bon, la séance est clôturée. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui.